With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour,
bonjour
à tous.
Bonjour.
Chers Hello. Invités, bonjour. Nous sommes avec Cola, Avamind. Pierre.
Bonjour.
Alors, il y a plein de trucs spéciaux. On n'est pas sur la chaîne
oui,
du stream.
Vrai, ça.
On est, et on n'est pas du tout à 20h30. Il est 14h. C'est une grande première. Et Magla n'est pas là non plus parce qu'elle prépare un stream, un gros stream de ce soir. Donc, elle est en pleine préparation. Mais nous avons de charmants invités autour de la
Mais
table.
Oui.
Comment allez-vous?
Nickel.
Voilà, je vais.
Oui, très bien.
Ouais, je suis au parfait.
Je vais vous présenter un petit peu pour ceux qui peut-être débarquent. Nous avons Avamind qui est streameuse, c'est ça?
Exactement.
À temps plein, tu fais du jeu vidéo, du talk, du plein de choses.
Exactement, j'interagis avec la communauté et puis je joue l'après-midi.
On t'a vu dans RPZ aussi, le GTA
oui.
RP.
Tout à fait.
Et nous avons à ma droite Colabim, illustrateur, animateur, youtubeur, twitcher. What else?
C'est tout, c'est déjà pas mal.
Ouais. On peut en inventer également des métiers. Mais non, je suis très content de vous recevoir là. Pierre, ça va toi?
Oui, ça va. Je pissais des lames de rasoir ce matin, mais oui, là ça va mieux.
Tu m'as dit que tu avais une petite infection.
Ouais, je sais pas si c'est infection, mais voilà.
Let's go.
L'overshare, quoi.
Premier sujet de la soirée.
Pisser des lames
alors,
de rasoir.
Alors ça va pas être l'urine, pas encore, j'ai envie de dire. C'est très bizarre parce qu'on a beaucoup trop parlé la dernière fois. Mais nous avons une thématique qui sont les frères et sœurs,
famille, ouais.
Puisque nous avons expérimenté plus ou moins des choses avec nos grands frères, petits frères, grandes sœurs, petites sœurs, demi-frères, il y a plein de choses comme ça. Mais avant ça, avant qu'on discute de tout ça avec nos chers invités, nous avons un générique de l'émission. Il faut dire son nom dans le trou, ok?
Ok.
C'est toi qui vas commencer, Cola. Générique.
Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable...
Colabim.
Ainsi que l'inimitable...
Pierre Lapin.
Oh merde.
Sans oublier l'incorrigible...
Avamind.
Ah bah voilà.
Oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant.
Le choix.
Non, mais c'était bien. Tu as cru que tu étais planté.
Ouais,
non,
mais
c'était
je sais
bon.
Pas, ouais.
Ne vous inquiétez pas, elle était très bien. Okay. Toi qui découvrais le générique, t'avais été l'air très stressé et t'as été excellente. Bonjour à tous. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y aura une deuxième émission à 16h avec les scénaristes de l'épopée. Oh, monsieur, il se met le. Alors, c'est ça les streamers.
Le stream, ouais.
Nous, on essaye de cacher un peu le chat. Et bah, les streamers, on décide autrement.
C'est invisible.
Est-ce qu'on a des petites news peut-être pour commencer? Il y a des trucs qui sont passés sur Internet.
Bah oui, il y a des gros dramas aujourd'hui. Attention, semaine et aujourd'hui, il y a encore des soucis de DMCA. Donc, il y a eu Squeezie qui récemment a eu des soucis à cause d'une vidéo d'il y a 3 ans, 4 ans, qui a eu une interdiction. Ah oui, avant ça.
Qu'est-ce que c'est un DMCA?
DMCA,
parce que là, on balance le blaze.
Ça va être des ayants droit qui vont dire « Ouh là là, attention, tu utilises une musique à nous. » Hop, on va te strike la vidéo ou te la démonétiser pour prendre la monétisation. Et si tu as un strike sur YouTube, bah, tu peux avoir...
Au bout de 2-3 strikes, en fait, ta chaîne YouTube, elle est supprimée, bannie?
Bah là, j'ai l'impression qu'elle...
Elle est censée être supprimée.
Censée être supprimée.
Ouais, d'après les règles.
Mais là, donc du coup, Squeezie a eu une interdiction de poster pendant 7 jours. Voilà.
Sérieux? Pour une vidéo de 2018?
Puni, une vidéo de 2018, effectivement. Mais aujourd'hui, enfin hier soir, grand drame... Ah, Gotaga, voilà. Après la Shift Race, s'est fait bannir de Twitch. Un martyr.
Je rigole,
écoute,
mais
tout le monde est hashtag FreeGotaga aujourd'hui.
Pour les mêmes raisons, a priori, c'est
apparemment
un ayant droit.
Ce que nous disait un peu Ava, ce qu'on avait surveillé ensemble, c'est que potentiellement c'est un DMCA, ce n'est pas le premier. Il y avait Ads aussi. Je ne sais pas si on dit Ads ou ADZ, pardon. Wingobert et tout ça. Donc c'est un problème. Actuellement, ça c'est sûr. Donc tout le monde se dit, oh là là, Gotaga, FreeGotaga et tout ça.
Et là, bon. Il est banni pendant plusieurs jours, pendant... Est-ce qu'on...
C'est toujours très flou.
Ouais, c'est un peu flou. C'est Twitch qui fixe un petit peu ça en fonction du type de ce que tu as fait pour le ban. Ça peut aller 3 jours à un peu plus. En général, pour ce genre de soucis, effectivement, c'est à peu près 3 jours.
Mais il n'y a pas de pas, enfin pas un passe-droit, mais il y a pas genre une règle assouplie, genre ah bah ça se voit que c'était juste une erreur, etc. Et
bah,
là,
quand...
là c'est sûr, il va être ban 3 jours là.
En gros, bah si ça a été annoncé et que Twitch en a parlé avec lui, oui. Après il y a aussi ce truc de, en général des fois ils les préviennent un peu en amont et je sais que Twitch FR est beaucoup plus cool que Twitch US, mais Twitch US a besoin de faire des exemples des fois, donc bah malheureusement des fois ça tombe.
Ok, je crois que c'est la pire pub. Enfin, je.
Bah.
qui se dit, ouais, c'est une bonne idée ça. On va. Gotaga, non, on va le ban quelques jours juste pour montrer l'exemple. C'est... Bah.
C'est... En plus, c'est un vieux clip. Ce qui s'est passé.
Mais
c'est
oui, j'ai
pris sur un vieux clip. C'était le Z Event, non? C'est ça.
Moi, j'ai pas l'info, mais je sais.
Je crois que c'était pendant le challenge du eye tracker. Okay. Pendant le Z Event de il y a 2 ans peut-être, où il y avait une musique qui passait dans les vidéos YouTube qu'il regardait, et ça bah, il a pas pu le mettre sur une piste séparée et du coup bah, il s'est fait ban, mais hyper rétroactivement quoi.
Ouais, genre,
mais comment tu veux, enfin disons que Twitch veut montrer l'exemple, comment tu peux dire écoutez on va prendre un clip d'il y a 2 ans et le taper les doigts là-dessus, enfin tu vois, c'est
mais en fait c'est pas Twitch qui décide c'est là-dessus ça. Twitch s'ils pouvaient nous laisser toute la musique du monde ils le feraient, et d'ailleurs ils ont laissé entre guillemets des outils qui permettent quand même de voilà simplement séparer les pistes, après t'en fais ce que tu veux, mais notamment ça existe, et donc Twitch montre quand même une envie d'aller vers quelque chose de on trouve un accord entre les créateurs parce qu'ils ont pas envie de ban leurs grosses têtes, ils vont ils n'ont aucun intérêt à les ban, mais en fait, c'est comme d'hab, c'est les labels, en fait.
Okay. Les endroits.
J'ai une propale okay, pour calmer les tensions, ou en tout cas, essayer de rétablir une sorte de justice là-dedans. C'est que un peu comme la manière de YouTube, quand une vidéo est bloquée, il y a écrit qui l'a bloquée.
C'est ça.
Okay. Et donc, par exemple, tu peux voir une vidéo de One Kill Studio, l'un qui était racide, et qui est bloquée, et il y a écrit Universal, ou tu vois... Mm-hmm. Et là, au moins, tu peux dire, putain, les bâtards, et, tu vois. C'est bien d'avoir un coupable, finalement. Ouais. Sur Twitch, pareil, il devrait écrire Gotaga a été banni par, et là le nom des trois trucs. Au moins comme ça, les gens se diront, on sait qui sont les tarbas.
Bah, c'est clair, parce que là c'est Twitch qui prend à chaque fois, en plus à chaque fois. Alors que eux, dans le principe, ils laisseraient, je pense. Hein.
Mais pour moi, il faut quand même t'engages une discussion. Tu dis, ouais, tu peux supprimer juste ce truc-là, enfin tu vois, plutôt que de bannir, non?
Ils essayent.
Ah oui, très clairement. Et puis surtout, c'est un petit peu lassant aussi de voir ce genre de ban instrumentalisé pour taper une fois de plus sur les meufs ou créatrices, et ça c'est absolument épuisant et de voir ça, enfin quand je vois donc Frigotaga sur Twitter, bah, tout le monde va comparer déjà ce qui n'est pas comparable, donc le hot tub et des DMCA, ça n'a rien à voir.
Attendez, je viens de tomber mes yeux vers le chat, et là si tu l'avais surveillé,
j'ai pas vu.
Il est unban apparemment. Plus banni, voilà.
Mais quelle surprise, mais what? T'imagines Twitch se séparer d'un des plus grands acteurs? Ça aurait été vraiment une injustice terrible. Mais non, mais là, mais en vrai, c'est un vrai souci. Et les gens, je pense que bon, Gotaga, c'est un acteur principal, mais les DMCA, c'est un problématique. Et garder vraiment cette énergie pour soutenir des créateurs ou créatrices qui sont vraiment dans la précarité et eux n'auront pas l'aura de Gotaga. Donc je pense qu'au lieu de cibler d'autres créatrices, je pense qu'on peut cibler des gens genre Jeff Bezos, déjà, je pense qu'il peut racheter toute la planète entière et je pense qu'il peut y avoir des accords commerciaux.
Vous voudrez envoyer de la pizza à des gens.
Ne vous trompez pas d'ennemis et soyez là aussi pour soutenir de plus petits ou plus petites créateurs, créatrices qui vont avoir un souci, parce que là, on va avoir un terrible souci.
Là, il y a plein de gens qui vont se faire ban. Vous
pensez moi, j'ai eu un mail de Twitch, et je les remercie, Twitch FR, qui vont genre, mec, supprime tout, sinon tu décolles demain. Quoi. Moi, j'ai tout supprimé.
Okay.
J'ai toujours un seul strike.
Ok.
Mais voilà quoi.
Mais c'est une hécatombe. Quand il y a eu les premières sondes, c'était il y a quoi? Il y a 6 mois, un truc comme ça, où d'un coup, il y a plein de gens qui se sont fait tous strike de partout, un peu comme YouTube, quand tout le monde a un passe-droit, puis d'un coup, du jour au lendemain, t'es pas prévenu, on te dit supprime tout, alors que c'est tout ton contenu. Je me rappelle, en tout cas, l'entièreté de mes contacts Twitch, je disais ok, on supprime tous nos clips. Moi, ça faisait un an que j'étais là, donc c'était ok, mais ça fait 6 ans, c'est tellement de souvenirs.
Horrible.
C'est horrible.
Parce que là, t'as des strikes, toi?
Non, j'ai pas eu de strike, mais j'ai même pas supprimé mes clips, mais j'ai essayé. Je les ai tous téléchargés, j'étais là, ça fait 3 ans que je live. Tu sais, le live, c'est pas genre YouTube où c'est travaillé, là, c'est vraiment des moments de vie et des moments hyper spontanés où tu te dis, j'ai pas envie de les perdre, quoi.
Ah oui, c'est marrant que vous soyez attaché. Vous êtes attaché aux clips, vous, à tous ces lives et tout.
Ouais, un petit peu. Ouais.
Bah c'est ce qui reste, quoi. Parce que en fait, nos diffs, elles sont, à part si tu fais des temps forts, elles sont enlevées au bout de 2 mois. Donc ça, on est habitué. Mais par contre, ça, si toi tu les as pas mis sur YouTube ou autre, c'est des petits moments de vie. Enfin, les clips, c'est.
Je me suis rendu compte que j'étais attaché quand j'ai dû tout les supprimer. Et j'ai vraiment été genre, ah ouais, merde.
Tu peux les récupérer, du coup, ce que t'as fait.
Oui, tu peux les télécharger.
Ah bon? Non, mais oui, mais j'ai tout supprimé sans télécharger vraiment.
Non,
mais parce que j'ai paniqué, en fait. Ah, d'accord, j'ai regardé ma chaîne, plus rien, j'étais genre.
Ah,
Okay. Y a eu des sessions live de pas mal de streamers, dont moi, où on regardait les derniers clips avant de les supprimer. Ouais. C'était.
Ça, ça va devenir un peu, tu sais, les albums de Daron, là, genre.
Eh, vous avez vu, là, t'avais 8 ans, là, tu t'es tombé.
Et ça va être pareil, genre, ah, te rappelles. Enfin, ça va être.
Tu te rappelles quand tu t'es viandé sur ta chaise, là.
Le classique, finalement.
Ah, bah, oui, ça, ah, très bien. Ouais, c'est. Est-ce qu'il y a d'autres petites news, Pierre? Ouais.
Non, mais je sais pas, parce qu'on s'est pas vu, il y a eu l'E3. Est-ce que vous avez regardé, consommé l'E3? Est-ce que ça vous a fait chier?
C'était un peu. Moi, j'adore.
Moi, c'était ma vie quand j'étais petit.
Ah ouais. Moi,
le 3
32 ans, c'est ma vie aussi.
Sauf que j'ai rien suivi là.
Ah, moi, j'ai jamais trouvé ça intéressant. Quoi.
Ah ouais.
Le fait de voir des avant-premières de jeux et de gens qui vont dire oh, regardez, ça va être trop cool parce que le personnage principal.
Mais pourquoi tu prends ma voix là?
Il est blond.
Non, moi, j'adore, ça me fascine. Mais aussi parce que j'ai vraiment vécu des grands moments pendant les annonces, tu vois, pendant les conférences, quoi. Je me rappelle de certaines conférences de Sony, genre je m'en rappelle, tu vois. Tellement c'était ouf dans la salle, les annonces et tout. Par exemple, le remake de FF7, je veux dire, dans la salle, les gens étaient devenus fous, tu vois. Je regardais à ma gauche, à ma droite, les gens étaient comme ça. Ouais, tu vois, des gens que je connaissais pas, tu vois. C'était le feu, quoi.
Mais parce que du coup, t'étais sur place, toi. Je pense que ça change la diff.
Mais je regardais quand même avant que de m'y rendre. Je regardais quand même les conférences, j'adorais ça. Et même encore aujourd'hui, même si je trouvais que c'était une année très, très fadasse, mais je les ai quand même regardées pour la plupart.
Mais je me rappelle sur Game One, j'étais gamin, je voulais y aller, c'était mon rêve, quoi.
Ah, moi, ça l'est toujours, hein. C'est un goal life.
Comme ça, j'étais genre, waouh, ultra ultime. Donc, du coup, de voir un peu cette nouvelle formule-là, j'étais genre, il y a un truc un peu plus cynique que tu perçois. Ouais. Peut-être que ça vieillir aussi. Mais là, j'étais moins attaché, du coup, j'ai pas trop suivi. Je sais pas trop. Après, je sais qu'il y avait les Wholesome Events, je sais pas quoi. Enfin, t'as plein de petits événements indépendants aussi qui un peu changent la donne, ça c'est cool, plutôt que les gros trucs à rallonge. Mais moi, je sais pas si vous avez vu des jeux qui vous ont plu ou.
Il y a eu des confs qui étaient intéressantes. Il y en a eu qui étaient vraiment pour sa coche média notamment, qui a surpris beaucoup de gens. En plus, ça a été sponsorisé sur beaucoup de chaînes, donc les streamers pas trop au courant de ce qu'ils allaient voir, ça a dû être un peu compliqué. Mais
ils ont balancé quoi, coche média?
C'était du blabla, mais c'était un truc vraiment boring, quoi. C'est pas du tout de présentation de jeu et tout. Et bon, à l'E3, tu t'attends à des annonces. Enfin, tu veux voir des bandes annonces, quoi. Il y avait celle de Xbox qui était intéressante. Il y en avait pas mal. Après, ça dépend quel type de jeu. Moi, par exemple, je suis pas très Nintendo, mais voilà, Nintendo, pareil. Nintendo. Tu penses que tu vas faire l'annonce et puis bah, juste 2 heures avant on te dit personne peut le streamer.
Ouais, ça, il y a des gros soucis. Parce qu'il faut dire qu'effectivement, à cause du Covid,
historiquement, il y a toujours eu des streams sur Nintendo, des gens qui pouvaient.
Sur Nintendo Direct, ouais.
En tout cas, je sais qu'ils sont un peu durs là-dessus, mais là, à distance comme ça, pendant une période Covid où en fait, t'es obligé de faire ton événement, tu n'empêches pas les gens de le diffuser. C'est contre-productif.
J'ai pas trop compris, ouais.
Du coup, il y avait des lives où les gens n'avaient pas l'image et ils commentaient en disant waouh, c'est incroyable ce que je vois là.
What the fuck, en fait.
Ah, il y a eu ça, des gens qui commentent sans regarder.
Bah, il me semble que MV, c'était ça. Il avait pas le droit de mettre l'image. Donc, alors là, ouais, là on voit ça, enfin, c'est dur quand même. Ouais.
Et aussi, une fois de plus, des problèmes de DMCA parce que les éditeurs n'ont pas capté que dans leur générique, enfin dans leur trailer, il y avait des chansons non libres de droit. Et du coup, des streamers ou streameuses qui se sont fait ban.
Alors qu'ils étaient en sponsor de ça.
Elle est belle la vie sur Twitch, incroyable.
Non, mais c'est génial. C'est génial.
J'en reviens pas que t'aies aucun strike. Il mériterait quand même.
Ouais, moi non plus, j'en reviens pas.
Non, il passe à
Twitch,
travers les gouttes.
Regardez-le.
J'en reviens pas, j'avoue. Mais j'utilise un truc qui permet d'avoir une piste séparée. Du coup, sur ma rediffusion, j'ai pas la piste audio du live. Mais s'il y a un bot qui passe pendant le live, là, je serais strikeable.
Ok, voilà. Mais ça arrive ça pendant.
C'est la légende urbaine apparemment pour l'instant, on sait pas
ça
trop.
Ça va arriver, il y a des petits. Moi j'utilise la même technique aussi. Au début c'était un peu caché et en fait Twitch et OBS ont dit vous savez quoi, bon finalement on vous la donne et maintenant c'est directement possible dans le logiciel. Okay. Donc c'est quand même cool. Mais sauf que quand effectivement le robot direct va arriver, bon bah.
Mais t'as même des jeux ça depuis plusieurs années où qui disent désactiver les musiques, tu vois.
Donc, dans Watch Dogs il y avait ça.
Voilà, ils s'adaptent pour les streamers.
Parce que le truc c'est que ça fait faire un live de 4 heures où tu écoutes juste de la lofi non copyrighté, c'est lourd évidemment. T'as envie d'écouter des bons sons.
Le métier de streamer est très dur.
C'est un peu frustrant.
Non mais c'est un grand flou parce que surtout je crois que récemment il y a la SACEM qui s'était penchée un peu sur les choses. Je sais qu'aussi moi qui essaye d'établir un programme musical, pourquoi j'ai fait ça? Au secours. Il y a même les ayants droit qui essaient de voir est-ce qu'il n'y a pas des choses, on vous file un catalogue ou quoi que ce soit, un truc comme ça, mais c'est un bordel monstre. J'ai l'impression que personne ne court, mais même entre Twitch et Twitch FR, la communication a l'air d'être bloquée aussi, quoi. Donc je ne sais pas, peut-être Jeff Bezos vient nous sauver. Et d'ailleurs, ça me fait une transition, j'ai même pas fait exprès.
Tu veux dire que tu es quelqu'un d'exceptionnel?
Bah, je suis gifted,
je
en
suis
fait.
Jeff Bezos.
Non, cette semaine, il y a une pétition qui mettait en scène notre très cher Jeff Bezos.
À propos de Jeff Bezos.
Ouais, à propos de Jeff Bezos. Quelle était cette pétition?
Rends l'argent, j'imagine. C'est un sobre, efficace.
Ouais, comme Fillon, non. C'est plus outre-Atlantique, donc ils n'ont pas cette référence-là. Ouais.
En tout cas, je trouve que ces sujets, ils sont hyper bien filés, t'as vu? Mais ça s'enchaîne, c'est incroyable.
Merci. Ouais.
Waouh.
Non, est-ce que vous avez une petite idée de l'actu de Jeff Bezos?
Je sais qu'en ce moment, il y avait des trucs un peu avec Amazon, avec des promos, des choses comme ça. Du coup, peut-être au niveau de la surconsommation, incitation. Ouais,
Bezos surconsommation, mais
on s'écarte pas, là,
n'importe quoi.
C'est dans ses veines, hein, mais...
Jeff Bezos a donc Amazon, Twitch, mais il a autre chose aussi.
Le monde.
Il y avait un truc d'exploration spatiale.
Effectivement. Blue Origin. Exactement. Et il y a une pétition qui a été lancée.
C'est une sorte de SpaceX ?
Exactement. Okay. Et donc, il y a le premier vol habité. Donc, ça va être le 21 juillet, il me semble. Avec donc, Jeff Bezos, son collègue. Et quelqu'un qui a été tiré au sort. Le tirage au sort, je pense qu'il y avait...
Tiré au sort, ouais.
C'est ça. Je pense qu'il y avait ton ticket d'entrée qui devait être à 20 milliards. Et
écoute,
tu peux aller.
Dans ma tête, c'est le golden ticket, ok donc,
Et donc le premier vol sur
Jeff Bezos va
dans l'espace. Et donc il y a une pétition.
Pour qui se prend ce mec ?
Pour qu'il reste.
Pour qu'il reste dans l'espace. Donc t'as des dizaines de milliers de personnes qui ont dit bon, ok, tu te la racontes. Maintenant, reste-y. Donc, c'est un peu drôle de voir ça. Et donc tout le monde s'est un peu excité. C'est devenu un peu le même cette semaine. Et il y a une autre pétition aussi qui propose que Jeff Bezos achète Mona Lisa, enfin la Joconde, afin de se nourrir d'elle et de mourir, voilà, enfin de s'étouffer avec. Donc les gens ont une haine un peu à considérer contre Jeff Bezos. Et effectivement il y a des soucis par rapport à Amazon aussi, où c'est clairement de Jeff Bezos a clairement verbalisé que bon, pour lui ses employés étaient des fainéants. Et donc, mais il avait proposé des petites cabines, je crois que c'était les Amazon Zen ou je sais pas quoi, donc une petite cabine au milieu de ta warehouse là, et tu peux aller te reposer.
Et
je crois que tu peux avoir des petits sons d'oiseaux et ça te permet un peu de te reposer. On le remercie, merci beaucoup Jeff Bezos.
Mais on est d'accord que la pétition ne va rien changer, il va partir dans l'espace et va revenir.
Bah si, il n'y a pas de souci.
Ce serait marrant que Jeff Bezos, vraiment, ils disent ils sont quand même plusieurs milliers à signer, bon bah je reste dans l'espace.
J'avoue les gars, je reste.
C'est vachement plus calme ici.
Non, mais après on sait que les multimillionnaires ou milliardaires ont un souci avec les trucs aéroportés, hélicoptères et tout ça, donc que j'espère qu'il va
Mais c'est un peu le grade ultime, quand t'as tellement d'argent que tu sais pas quoi en faire, bon bah tu voyages dans l'espace quoi, c'est le seul truc que j'ai pas coché. Donc,
mais on est d'accord que ça ressemble vraiment aux méchants dans les films, quand
ils ont
plein
clair,
d'argent, etc.
Il a un petit bouton quand il arrive en haut.
Ils sont tous très très riches et ils disent je vais dans l'espace maintenant.
Tu vois, je me dis qu'il va y avoir une espèce de guerre froide. Tu vois, il y avait Elon Musk qui va être tout vexé de ne pas avoir été dans l'espace. Donc il va faire plus fou. Et c'est ça qui va conduire à la Troisième Guerre mondiale.
Il n'y a pas un projet de station spatiale autour de la Lune?
Mais je crois qu'il avait évoqué ça.
Je crois que c'est justement le truc de Amazon.
Enfin, sur Blue
Origin. Je crois que c'était une base chinoise qui voulait lancer pour être autour de la Lune. Et du coup, ça permettrait de faire du tourisme spatial et d'avoir des gens qui vont dans ISS ou alors qui vont. Parce qu'ils prennent des touristes, je crois, ISS.
Oui.
Et dans l'autre station spatiale, du coup, vers la Lune. Pour chiner.
Les vlogs que tu vas y faire, mon gars.
Toi, t'irais dans l'espace comme ça, dans une. On propose un petit.
Après, le truc, c'est que c'est très romancé, mais tu vas dans une capsule. C'est un sous-marin qui est juste dans un environnement hyper sombre et tu vois pas grand-chose, quoi. Mais t'as une jolie vue d'une planète de loin, quoi. Mais juste pour dire que tu l'as fait, ouais. Et pour la sensation du décollage, ouais.
Ouais, et la sensation de non-apesanteur aussi. Genre, juste savoir ce que ça fait, ça doit être
assez. Vous avez déjà fait des. Comme si tout le monde pouvait le faire.
Comme si tout le monde l'avait fait. C'est très cher en plus.
Hein, vous avez fait des. Moi, je connais quelques personnes qui l'ont fait. C'est pour ça que je demande. Vous avez pas fait de. Ça vous intriguerait de faire un vol 0G sans gravité?
Je connais quelqu'un qui l'a fait. Il est assez proche de moi. Et moi, je l'ai pas fait. J'ai un peu le seum.
Ouais.
C'est Léo, mon frère.
Et voilà, la confrontation arrive.
Rivalité.
Est-ce que vous avez une petite checklist? Et genre, putain, lui, il est un peu plus loin que moi, le bâtard. Le vol 0G, là, il a pris l'avance, là.
Ouais, de fou.
Vlog dans l'ISS la prochaine fois.
Ah, j'avoue.
Bah, voilà.
Mais là, Léo, il a fait sa comment ça s'appelle son CV pour devenir astronaute.
Ah ouais,
pour
il postuler, ouais. Trop bien.
Mais
il faut
pas
être.
Ça marchera pas, mais pour devenir influenceur de l'espace, ça va marcher, quoi.
Ouais, putain. Mais parce qu'il faut pas être. On est d'accord, pour être astronaute, il faut être. Je sais que Thomas Pesquet, par exemple, il était pilote de ligne. Léo, il n'est pas.
Il n'est pas pilote de. Non, ça, je suis quasiment sûr.
Ok.
Mais ils prennent plein de types de profils. Ah, okay. Et en vrai, il a un profil d'aventurier et de.
De chercheur aussi.
Ouais, chercheur, conférencier, capable de plein de trucs.
Ouais, ouais. Putain, si ton.
Ah, franchement,
si
dans Alien, il y a des botanistes, il y a tout. Ouais. Enfin, dans les films.
Oui.
Mais j'avoue.
Dans Alien. Ouais. Mais est-ce que dans Alien, c'est en vrai.
Microbiologie.
Voilà, c'est ça. Donc peut-être.
Ça commence comme ça.
Ce serait vraiment marrant. Tu sais, dans les nouveaux casting, tu sais, où t'as Thomas Pesquet, Bidule, et un influenceur, une influenceuse. Et ça, c'est pour moi, c'est pour faire des petites stories. Voilà,
documenter le voyage, ouais, quoi.
C'est trop marrant, quoi.
Léna situation.
Quelqu'un qui subit vraiment dans la, tu sais, dans le décollage, tout le monde est concentré. L'autre.
Top 10 de mes tenues dans l'espace.
Mon petit hall.
On va y arriver.
C'est Black Mirror, mon pote.
La vérité, ouais. Tu mets quelqu'un de, comment dire, totalement barré dans l'ISS ou dans ce genre de voyage, ça me fait marrer. Jeff Bezos, ça m'amuse pas du tout parce que c'est boring, tu vois. Mais j'avoue, un mec vraiment craqué, je serais un peu obligé de regarder, genre. Bon, franchement, on envoie Michou dans l'espace. Non, je vous jure, je regarde tout. Je regarde tout, je loupe pas une seule seconde. Bon, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire.
Il nous fera un clip à l'intérieur, tu sais, vraiment.
Posé dans l'ISS.
J'en rêve.
En vrai, je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que la NASA et l'ESA, ils ont besoin de
Michou.
ils ont besoin de popularité. Ils ont besoin que les gens se réintéressent à ça.
Comme
conquête spatiale.
Mais il faut se réintéresser. Mais pour moi, c'est déjà au climax.
Mais c'est un peu élitiste, je pense. C'est ça aussi.
Ouais.
Je sais pas, c'est que des personnes riches ou des gens qui s'intéressent vraiment à ça, alors que quelqu'un de random, il se dit « Oh, c'est Cassiopée », tu vois, genre, ça s'arrête.
Ouais, c'est ça, oh, cool.
Tu veux pas envoyer un message à ton frère, genre « Vas-y, fais des trucs un peu buzz, des clips et tout. »
Unboxing de Draco Feu.
Peut-être ça peut t'aider à faire partir dans l'espace.
Elle s'envole.
Ah oui, j'avoue, un petit Draco Feu shiny qui flotte là comme ça.
Non, mais par exemple, dans ton cas à toi, genre, essayer de dessiner dans l'espace, au niveau de la pression du crayon, enfin, tout doit être différent, tu vois, ça doit être assez ouf en vrai.
Ouais, ça, ouais. Je pense que Thomas Pesquet, il peut nous documenter ça. Il faut forcer un peu plus.
Ouais, c'est ça.
Mais oui, putain, mais j'avoue que ça fait rêver. Moi, je suis pas très aventurier, donc du coup, ça me fait pas rêver de ouf, tu vois, partir dans l'espace. Mais je comprends ceux qui, c'est genre goal ultime.
Y être, se téléporter, ok. Du coup, il y a un film qui a un peu déromantisé tout ça, c'est le film de Damien Chazelle qui s'appelle
First Man.
Et du coup, qui prend un point de vue vraiment, point de vue de l'homme, à savoir que t'es juste, comme tu dis, enfermé dans un cercueil qui est propulsé par 3 000 gallons de pur explosif en dessous de ta gueule. Et tu te fais juste secouer pendant 1h30, quoi. Et tu dis, ouais, non, pas trop envie. Le bruit, tout ça.
Ouais, mais tu penses à la finalité.
Et même, justement, la bande dessinée de Marion Montaigne sur Thomas Pesquet.
Ah, j'avais adoré. Vous
avez
vu ça.
C'est incroyable et qui débunk un peu tout ce qu'il faut faire. Tu dis, ah, ouais.
Trop marrante, la BD.
Gros mental, quand même.
Bah, c'est Thomas Pesquet qui a fait une BD avec Marion Montaigne. Mais c'est vraiment les mots de ça qui est marrant, en fait. Ouais. C'est que c'est vraiment une BD de Thomas Pesquet, en fait. Ouais. On dit que. On a l'impression que c'est Marion Montaigne qui a fait tout, mais en fait, lui, il a vraiment écrit avec elle, etc. Tu vois. Et en fait, il dit tous les détails. Et bien évidemment, dès que ça parle pipi caca, comment il gère ce genre de truc. Moi, je passais les pages genre chez les rires, tu vois, parce qu'il y a bien évidemment des détails que tu veux pas savoir.
Mais c'est une grosse problématique, ouais. Comment tu fais, en fait.
Le pipi, le caca, c'est une vraie
problématique. T'as des entraînements, enfin, factuellement,
entraînement,
t'as des entraînements.
Aspirateur.
Ouais. La navette.
Il y a tout qui part. De...
La navette qui est partie, la Dragon Flight.
Voilà.
La dernière navette de Thomas Pesquet, ils ont ajouté des toilettes dans celle-ci. Comme ça rajoute un chiotte. Ça branche un chiotte en plus dans l'ISS.
Ah,
tu vois. Et genre, il a fait genre 3-4 photos dessus, genre, hey, il y a nos chiottes qui paraissent nulles, mais genre pour eux, c'est le feu de Dieu, en fait. Tu vois.
Ouais.
Voilà, la BD est vraiment exceptionnelle, je vous la conseille. Est-ce qu'il y a d'autres petites news, peut-être, avant qu'on parle des frères et sœurs, ces personnes qu'on déteste. D'ailleurs, on a recueilli des témoignages de gens qui nous ont expliqué un peu leur rapport avec leurs frères et leurs sœurs. Il y avait du plutôt lourd.
Oui, oui.
J'ai cru que tu allais dire on a fait une petite surprise, on vous a ramené vos trois frères que vous avez perdu depuis la naissance.
Caché, je ne vous connais pas, monsieur.
Timothée. Alors, on travaille les émissions, mais pas à ce point-là.
Genre Hélène, quoi.
Est-ce que tu ouvres Hélène le rideau, du coup.
Cette émission, mon Dieu, j'ai des flashs. Ok, Bataille et Fontaine. Ok. Non, il y a l'Oregon qui va devenir le troisième État à légaliser quelque chose. Est-ce que vous avez une idée?
Logiquement, je dirais soit le cannabis, des pratiques obscures.
C'est une pratique.
On va plus sur une pratique obscure.
Okay. Ça ne se consomme pas.
Oregon, c'est où? C'est au centre, à peu près?
Comme si je le savais, en fait.
Okay.
Je pense que c'est un indice.
Pas spécialement.
J'ai pas envie de tricher.
Non, non.
Je sais qu'il y a des endroits qu'il n'y en a pas du tout en Amérique, où tu as des endroits où il y a des fromages interdits, notamment. C'est autorisé pour les armes, mais tout ce qui est transport d'aliments, etc., ça n'a rien à voir.
Effectivement, il y a l'interdiction de certains fromages ou même de Kinder, mais ce n'est pas ça. On va dire, c'est une forme de recyclage.
Waouh, attends, une forme de recyclage qui est désormais autorisée, c'est ça ?
Le compostage des morts.
Exactement.
Non.
L'Oregon, qui va devenir le troisième État à légaliser effectivement le compostage de nos morts, qui est une solution viable mais aussi écologique comparée à une crémation.
Et là, c'est dur de rebondir à cette anecdote.
Ce qui est glauque, c'est qu'on dirait que c'est toi qui peux le faire. Mais non, c'est dans toute une structure. Tu l'amènes et tout. C'est pas toi dans ton jardin.
Tu mets pas papy dans ton jardin.
Oui, il y a plein de solutions où effectivement, tu peux mettre un corps, ça devient un arbre et tout ça. Donc il y en a qui essaient de romantiser tout ça, mais ça devient une solution.
Quels sont les autres pays en fait?
Les autres États, aux États-Unis.
C'était d'autres États.
Non, mais justement, je crois qu'il y a en termes de progressistes, il me semble, il y a une nouvelle fois le Colorado qui était aussi assez progressiste par rapport
à ses morts.
À ses morts. Non, à fumer ses grands morts.
C'est marrant qu'on soit obligé de lier les deux, tu vois. Cannabis et faire que papy devienne de l'engrais.
Non, mais que je te dise, logiquement, donc l'Oregon, on en a un troisième État. Est-ce que je vais avoir l'info?
Prépare pas tes
noms. C'est terrible. Non, il y a le Colorado, il me semble, et voilà, il y a l'État de New York bientôt. Enfin, il y a deux autres États qui vont essayer de.
Ça vous dirait, vous, d'être de l'engrais?
Non, mais en soi, c'est bien.
Comme ça.
Non, mais au final, on devient forcément de l'engrais. Si on te met dans un cercueil, il se désagrège et toi, tu désagrèges. Mais ça prend juste plus de temps, quoi.
Ouais, mais t'es dans des trucs un peu. Enfin, oui. Là, j'imagine que c'est un peu plus direct.
Mais surtout en termes d'empreinte carbone, ça, que ce soit en enterrement, la fabrication de tout ce qu'il y a autour, le corbillard, tu vois, l'essence, l'échappement, la crémation, la même chose. Et donc, effectivement, ce serait la solution la plus viable et écolo et plus rapide aussi,
et puis
j'imagine.
C'est peut-être moins cher aussi, parce que pour les familles, c'est quand même c'est compliqué. Enfin, on n'en parle pas trop, mais tout ce qui est lié à tout ça, c'est un business monstrueux et tout le monde n'a pas les moyens de faire ça pour sa famille. Tu
veux dire que les pompes funèbres sont en sueur actuellement, c'est ça?
Bah, je me dis, est-ce que du coup, si on devient biodégradable, c'est un peu moins cher, parce qu'il y a quand même, voilà, pas le fait du transport, le cercueil. Je crois que c'est le prix d'un cercueil, c'est monstrueux. Par exemple, si là, il n'y a pas besoin, du coup, vu que. Je me dis, ça peut être aussi une solution, puis peut-être écologiquement parlant, c'est vrai que c'est mieux, quoi.
Bah, franchement, quitte à être incinéré ou devenir une plante, moi ça me va.
Hein. Une plante.
Ouais.
Il y a d'autres solutions. Je sais pas.
Mais par contre, je suis dégoûté.
Attention, peut-être qu'il y a une nouvelle solution que tu vas nous apporter.
On peut se transformer en vinyle. Je ne rigole pas du tout. Il y a une entreprise. Ouais. Non, vraiment, il y a un truc où tu peux donner à ta famille, au lieu d'avoir des urnes, etc. J'avais vu, ils proposent. Alors, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais que tu sois effectivement intégré dans un vinyle sur la musique que tu veux et que tu es remis à la famille. C'est spécial, hein, mais c'est une possibilité.
Je serais bande organisée sur le vinyle.
Juste pour le petit pourcentage d'erreurs où tu es gravé sur le mauvais CD, je ne préfère pas essayer, tu vois.
Genre, tu te retrouves sur une chanson, avec une chanson nulle ou...
Bah, un petit Patrick Sébastien, un truc comme ça.
Attends,
c'est vrai que il se trompe, tu sais, vraiment, tu tombes sur du... Non, c'est chaud.
Ah oui, ou un bruit, tu sais, des trucs de... d'ambiance, tu sais, où je...
Mais bon. Vraiment pire.
Une petite OST de Doom, là, moi, je sais bien.
Ah, tu cracherais pas
dessus. Ah non,
donc, là, toi, tu serais une OST de Doom, que là, si tu devais être gravé sur une musique, si tes cendres seraient un vinyle, était un vinyle.
Attention aux ayants droit, DMC après la mort.
Non, mais de l'ASMR, de suçotage de doigts de pied, un truc comme ça. Très doux.
Un petit...
Très goulûment.
Ah oui. Merci, Cola, pour tout ce que t'as apporté à la planète. Pierre, Arcade Fire.
Oui, bon, Arcade Fire. Allez, next. Donc voilà, les news. Et après, je sais pas, tu voulais peut-être aborder la GBA qui te touchait ou je ne sais pas.
Ah bah oui, bah c'était une manière un peu rigolote de dire il y a 20 ans d'une console culte. Mais bon, c'est ce que tu veux dire. Non, mais j'ai vu qu'il y avait 20 ans de la Game Boy Advance. C'est comme on a des gamers autour de.
Ah, j'adore le gaming. 20 ans déjà, ça fait mal.
Je suis tellement vieux. Là, en ce moment, je joue à Link Awakening sur Switch. Et c'est le premier jeu auquel j'ai joué sur Game Boy.
La version...
En cartoon 3D, ouais.
Cartoon 3D, ouais.
Et c'est le rework du jeu. C'est le même jeu, mais en beau.
J'ai kiffé de ouf, moi.
Et c'est le premier jeu auquel j'ai joué sur Game Boy, en noir et blanc.
Ça t'a procuré les mêmes émotions, là, le remake?
Un peu, c'est assez bizarre, ouais. C'est, t'as les mêmes... vraiment les mêmes plateaux, le même jeu, les mêmes sons.
Les contrôles sont vraiment...
Sauf que c'est plus joli et c'est un petit peu...
Ouais, puis les transitions entre les écrans sont un peu plus jolies parce qu'avant c'était vraiment.
Ouais. C'est quand même un souvenir, mais en plus agréable, quoi. C'est assez bizarre.
GBA, vous avez joué?
Non, moi du tout. Pas du tout.
Ok, non. Bah 20 ans d'une console que personne n'a joué.
Golden Sun.
Golden Sun, mais oui, bien évidemment.
Advance Wars.
Advance Wars, mais c'est
moi j'avais
ça.
La Color en fait. Déjà, c'était beaucoup pour
et
mes parents.
Et t'as jumpé Colors à la PS5.
Non, j'ai eu la PS2, c'était ma première vraie console qui était assez chère pour mes parents. Et donc, du coup, moi j'étais vraiment plus joueuse de PS2 en fait, sur tous ces jeux-là. D'ailleurs, et Ratchet qui est sorti.
Ah, je vois que tu dénigres énormément Nintendo depuis le début de l'émission.
Ah non, j'aime
bien.
Mais j'ai pas grandi avec en fait. Je pense que mes parents ont fait un choix quand t'offres une console, c'est bête, mais en fait t'as été élevé avec. Donc si t'avais eu par exemple une PS1 ou que des PlayStation, je pense que ça te toucherait moins aussi. Mais
du coup, ça arrive à quel âge la PlayStation 2 chez toi?
Je crois que j'avais 9 ans.
Quel personnage es-tu?
Je crois que j'avais 9 ans parce qu'en fait j'ai un souvenir de ça parce que j'étais pas spécialement en jeu vidéo, j'avais eu la Game Boy, etc. Et mon père m'avait offert vraiment par surprise. Je m'y attendais pas, c'était même pas sur ma liste ou quoi. Pour moi, c'était trop onéreux, je pouvais pas demander ça à mes parents. Ouais. Et mon père m'avait offert ça, et c'était Crash Bandicoot, je me rappelle.
Est-ce qu'il te l'a offert pour y jouer lui-même? C'est une petite technique de daron.
Aussi, ouais.
Alors, il y a joué 2 semaines parce que c'était nouveau, et voilà, mais non, clairement. Okay. Mais c'était, pour moi, c'était inimaginable. Et ça a tout commencé, je pense, vraiment.
C'est fou. Donc, moi, j'étais d'une époque où je louais la PlayStation.
What?
Quoi? T'avais des vidéos store, j'avais pas de PlayStation, et comme t'as des VHS, au lieu de choper une VHS, tu pouvais louer la PlayStation 1 et je jouais à deux extrêmes. Un truc de de X-Game avec mon père. Et tu louais pour un soir, tu pouvais louer une PlayStation 1.
Je suis étonné en même temps, je trouve ça.
Ouais, c'est cool.
Mais c'était légit, c'était trop cool. Ah, tu vois, j'étais genre, j'en rêvais, tu vois. Et après, j'ai eu la chance d'en avoir une. Mais au début, je louais ma console, quoi.
Moi, j'allais chez mes cousins.
Ou le copain riche, effectivement, qui avait la Mega Drive et tout ça.
C'était quoi tes consoles
Olivier, merci.
C'est Game Boy, du coup
C'était, la vieille Game Boy. Le truc épais qui est pratique pour taper sur
la
son
brique.
Frein.
C'est ça.
Attention,
la transition.
et après, on a reçu avec Léo une Nintendo 64.
Ouf.
Et là, c'était le feu absolu.
Oh là là.
Et en plus, on l'a reçu avec les meilleurs jeux. C'était Smash Bros, Mario Kart, Ocarina of Time,
The Golden Gate.
Et après, il y avait d'autres jeux un peu bizarres. Mais j'étais là, c'est incroyable. C'était vraiment la folie. Quoi.
Si tu as la Game Boy, et on te dit en fait, jeu vidéo, c'est Smash, Mario Kart, etc. Mais ton cerveau, il est en mode
56K, 5G. Quoi.
En plus, si tu m'avais dit que j'y jouerais encore 30 ans après, on ne savait pas 30 ans non plus. Mais
la licence, tu parles ou du jeu 64?
Non, pas le jeu 64, mais la licence. Okay. Et que c'est des jeux qui sont similaires, quoi. Les mêmes persos, les mêmes mécaniques.
Nous avons PlayStation, nous avons Nintendo ici.
Ouais, mais moi, je respecte énormément, c'est juste que...
Bah, nous, les Nintendo, on respecte peu.
Voyez le teint de peau qui est, qui est un peu mieux.
Non, mais c'est des jeux, mais du coup, j'ai pas l'affect. Parce que, et puis en plus, c'est vraiment pas les mêmes thématiques. Non, les jeux Nintendo sont vraiment trop cool, il y a vraiment un univers... Les jeux PS2 de l'époque, c'était très weird. Ce n'était que des jeux weird.
Ouais. Et c'était Medieval, voilà. Je voulais juste. Non, c'était PS1, ça.
PS1, déjà,
Medieval. Pardon, Medieval. Ouais. Mais même, moi, Ratchet, c'était Jack and Dexter, Kia Dark Lineage, Malice, Vex, Primal. C'était que des trucs un peu deep.
Splitter aussi, sur PS2.
Ouais. Et du coup, c'était pour.
Ouais, c'était vachement adulte.
Ouais. Il y avait une thématique un peu sombre, en fait, à tous ces jeux.
Bresson,
bien évidemment. Pour les PlayStation, ils ont toujours été nous séduire avec ça, quoi. Le vampire, comment il s'appelait? Soul Riven?
Celui qui a pas de mâchoire?
Ouais.
Non.
Ouais, qui aspirait les gens. Ouais, les vieux ont parlé, on arrête. Ok, pardon.
Non, vrai. Nous arrivons à notre petite thématique. Alors, il y a plusieurs manières de fonctionner.
Déjà, tour de table. Qui a des frères et sœurs?
Ouais, déjà, très, très sobrement, vous avez des frères et sœurs, point d'interrogation, ici. Donc, Cola, toi, t'as un frère qui est très connu, qui a commencé YouTube avant toi?
En fait, techniquement, non.
Je veux pas recréer une guerre, attention.
Non. Le truc, c'est que.
Vous avez créé en même temps.
Ouais, c'est qu'à la base.
Je crois pas, il y a toujours un premier.
Non, mais à la base, Dirty Biology, c'est un projet qu'on avait commencé ensemble et qui était. Léo, il devait faire.
T'as été jarté? C'est ça que t'es en train de.
Non. j'ai décidé de me retirer en voyant le résultat des vidéos que j'ai faites. Et en gros, lui, il écrivait.
C'est une chaîne de science que vous avez créée ensemble.
Ouais, d'accord. Et moi, je rajoutais des blagues et à la base, on présentait ça en anglais. Et du coup, c'est moi qui racontais les épisodes en anglais.
Trop bien.
Et j'avais un niveau d'anglais qui était éclaté au sol à l'époque. Et je faisais de mon mieux et j'avais une espèce d'accent jamaïcain. Et les vidéos, elles sont super cringe. Léo,
elles existent encore?
Oui, il les a. Et c'est un moyen de pression. Je vis dans la peur chaque seconde.
Putain, je meurs d'envie de voir ce truc-là.
Ah non, tu meurs pas. Moi, je meurs si tu le vois. C'est quoi ça? Ça, c'est les 7 qu'on faisait.
Ah oui, oh bébé.
Ouais. C'était il y a quoi?
C'est les toutes premières.
C'est tout?
10 ans.
Les toutes premières vidéos. Là, tu travaillais dessus encore sur celle-ci?
Ouais. Okay. Et en fait, ce que je faisais, c'est que.
L'édito.
Je rajoutais des blagues, je faisais le décor, je filmais Léo, je lui disais, t'as oublié de sourire.
Ah oui, c'est vrai, regardez, il a oublié.
Mais c'est vrai. C'est vrai que quand tu débutes YouTube, c'est assez particulier parce que t'as plein de trucs à penser et ouais. tu vas être perdu oui. et tu vas avoir une idée fausse du rendu final. Et c'est cool d'être plusieurs en fait pour commencer une chaîne.
Je le reconnais avec beaucoup de. Non, mais moi, plein de fois, je déroche le truc et je fais putain, mais vas-y, tout seul, c'est trop dur. Ouais. C'était en quelle année Dirty Biology le début?
Aucune idée. C'était okay. il y a 4 ans, je crois.
Il y a 6 ans.
Sérieux?
C'était il y a 6 ans.
Il y a 2 ans qui sont.
Et ben.
Mais ça passe vite alors. Et toi, t'as créé ta. Du coup, t'as aidé ton frère.
Ouais.
Et tu as créé derrière toi aussi.
Et du coup, sa chaîne, elle commençait à marcher. Moi, je voyais qu'il avait juste besoin de moi pour appuyer sur on et vérifier que ça enregistre quand il filmait.
Mais tu le faisais très bien.
Ouais. Ils sont hyper bien enregistrés, les
épisodes. Si je puis me permettre, c'est appuyé, mais ouais. très très bien.
Et c'était vraiment, tu sais, on était en Thaïlande, donc la Thaïlande, c'est parfait parce que t'as un coût de la vie qui est très peu cher.
Ouais.
Et nous, du coup, ça nous libérait beaucoup de temps pour les projets perso. Et on faisait de la débrouille. Donc là, les décors que vous voyez, ouais. c'est nous qui allons voir un imprimeur et on lui dit « Ouais, tu peux imprimer tout ça. » Et ça nous coûte genre ouais. 10 euros pour 100.
Je suis obligé de poser la question. Les gens vont se demander pourquoi vous habitiez en Thaïlande.
En fait, moi, je suis parti en Thaïlande parce que j'étais illustrateur freelance. Mm. Et je me suis dit « Ça sert à rien que je paye hyper cher en France la vie. Mm. » Et le coût de la vie que j'ai en France vis-à-vis, par rapport aux bénéfices que je fais en faisant ce taf, vaut mieux que j'aille dans un pays étranger. Et que je paye moins cher. Toujours en payant mes impôts en France, mais c'était le jour et la nuit. Quoi.
Et c'est ce pays-là pour une raison particulière
hein? Non, pif. Vraiment. Ah ouais. Ouais, j'ai
la pub, là, tu sais, avec le loto, là. Australie.
C'est vrai. Ça a l'air joli. Non, chercher un pays d'Asie du Sud-Est, mais ça aurait pu être le Cambodge, le Laos. Ouais.
Mais c'est parce que
le
Vietnam. Ça te fascinait quand même, ouais. ce pays-là. T'as pas, je déteste ce pays, mais le coût de la vie est moins cher. Mais
bon. Non, c'était très marrant. Comment on est parti là-bas? Au début, on était juste deux illustrateurs. Ouais. Et l'autre gars, je le connaissais pas, je l'avais jamais rencontré.
Ah. Si je me permets, je trouve très courageux.
Audacieux.
Là, pour l'instant, ouais.
Je connaissais ses dessins, j'étais en mode, bah, ouais. Il a l'air cool.
Ça marche pas tout le temps comme ça.
Mais c'était vraiment sur un forum de dessin à la base et il me disait.
Quel forum?
C'était Café Salé.
Café Salé, ouais. Bien évidemment. Ouais, et d'ailleurs, sur Café Salé, il y a plein de gens très doués, mais aussi des sombres cons. Donc, t'aurais pu tomber sur des.
Ah oui.
Ouais. Sur quelqu'un d'ignoble.
Et j'aurais pu faire partie des sombres cons.
Également, ouais.
Et du coup, on est resté un mois dans une guest house, donc dans une espèce d'hôtel. À la fin, on avait amené des bureaux et tout, on avait fait une espèce d'atelier. Et c'est ça qui est cool, hein, c'est qu'en Thaïlande, c'est très flex. Tu peux vraiment discuter avec les gens et dire, bah, nous, on a besoin de ça. Et on a fait le tour des trucs pour louer des apparts, des agences. Et on a trouvé une maison. Et en fait, dans cette maison, en, je sais pas, 4 mois, on était 8 sur un bail à 4.
Okay.
Et Léo nous avait
rejoint. Faut mettre des serrures, en fait.
Non, hein, mais c'est pas normal. Ouais. Okay. Tout le monde venait nous voir. Et du coup, on a fait une immense colocation. On a commencé à louer des grandes maisons à plein. Et là,
c'est là que
tu
as créé, toi, ta chaîne YouTube, dedans.
Ouais. Et là, j'ai rencontré aussi d'autres potes qui dessinaient. Et à la base de ma chaîne à moi d'animation, donc Léo, on l'aidait pour son projet de Dirty Biology.
Toujours
appuyé
sur
Rec. Avec aussi, on faisait pas mal d'acting un peu gênant, genre les épisodes de zombies et tout. On faisait des mises en scène et des intros. Et
ne t'en cache pas de jouer un peu le jeu, la comédie, c'est
ouais,
cool.
La comédie. et moi, du coup, en parallèle, je faisais des dessins animés. Mm. Et c'était des courts-métrages d'une minute qu'on faisait à trois. Donc, il y avait un autre pote à moi qui animait et un ingé son qui nous aidait, un sound designer, comme on peut voir sur l'écran. Et ça, c'est le tout premier.
Okay. Wow.
Et en fait, ça, j'avais fait un storyboard. Et moi, je ne suis pas très doué pour raconter des histoires de base. Mmh. Et en fait, en faisant ce storyboard animé, je leur ai montré et ils étaient trop chauds. Et j'étais choqué de voir que je puisse convaincre comme ça des gens de bosser avec moi et de raconter des histoires, même si c'est des petites blagues.
C'était les gens, minutes. C'était fait avec les gens de ta coloc.
Ouais, avec mes colocs, ouais.
Okay.
Et en fait, ça a tout changé. Juste ce court-métrage-là, ça a tout changé parce que ça m'a renforcé dans l'idée que bah, l'animation, ça peut servir pour raconter correctement des trucs que j'arrive pas à raconter. À l'oral, quoi.
Ouais. Et ça s'est fait très naturellement. C'est comme ça que tu as créé, du coup, ta chaîne YouTube.
Ouais. C'est le premier épisode de la chaîne. Et ensuite, j'ai testé plein de trucs, du jeu vidéo, du vlog et le nouveau format animé qui est un espèce de podcast animé.
Ouais. En gros. C'est ce que les gens suivent aujourd'hui beaucoup sur ta chaîne. Donc, revenons à notre thématique.
Il y a un frère, c'est tout. Il y a ici. Ava, qui toi
Moi, j'ai une demi-sœur, mais on a 14 ans d'écart. Donc, jusqu'à mes 14 ans, j'ai été élevée en tant que, on va dire, fille unique. Donc, j'ai pas eu... le fait d'avoir une sœur, je m'en suis plus occupée presque comme une maman que vraiment en tant que sœur, en fait,
ouais.
Au final.
Bah oui, forcément, 14 ans, tu... Oui.
Ah ouais, quand elle est arrivée, quand tu t'occupes d'un nouveau-né, t'as pas la connexion. Enfin, c'est pas la même connexion, ah ouais, c'est normal, tu vois.
Et mais justement, à 14 ans, tu vois de quel regard cette nouvelle arrivante est, genre, jaloux, je pense pas,
non,
t'es un
non,
peu
du
vieille
du
quand
du
même.
Non, mais après, je sais que la dimension demi-frère, demi-sœur, c'est différent pour chacun, ouais. Mais moi, je l'ai considérée comme ma sœur, en fait, c'est juste le terme qui est différent parce qu'on n'a pas la même maman, mais le ressenti était exactement la même chose. Mais c'est vrai que j'ai vraiment plus un rapport, je trouve, presque maternel envers elle, parce que l'écart fait que... Elle est arrivée, je la changeais, je la donnais à manger, machin, etc., quand mes parents le faisaient pas. Et puis après, quand elle a grandi, comme on n'est pas dans notre quotidien tout le temps ensemble, en plus, c'est-à-dire que nous, on se voit, moi j'étais chez ma mère, lui c'était chez mon père, on se voyait vraiment par fréquence. Du coup, il y a eu des moments que j'ai loupés, donc c'est vraiment passé de tout, tu vois.
et
du coup, ça m'a un peu dépassée sur certaines choses. Là, elle est en pleine adolescence, et du coup, il y a ce truc, où espèce de gap générationnel, tu te dis aïe, aïe, aïe. Et quand elle part, je me dis oula, je comprends rien. Au secours, suis-je si vieille?
Oh non. J'ai la même chose avec mon petit frère, on a aussi 14 ans d'écart. Ouais. Nous, on est 4, j'ai un grand frère, une petite sœur et un petit frère. Et pour le coup, quand il avait, je sais pas moi, 6 ans, moi je suis parti de la maison. Et donc du coup, j'ai pas grandi avec lui. Enfin, lui, il a pas grandi avec moi, quoi. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'on se voit tous les Noëls et tu vois, quelques fois dans l'année et tout, bah ouais, ça grandit hyper vite. Ouais. Et en fait, on n'est pas proches parce qu'on a dans le sens au quotidien, mais ça fait très bizarre d'avoir comme ça.
Je pense que c'est la même chose pour moi, honnêtement. C'est vraiment, il y a vraiment des moments de vie où on se revoit et on se dit, ah ouais, il s'est passé tout ça. Et même elle, par exemple, je pense que entre la dernière fois que j'ai vu et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie et je suis même pas sûre qu'elle capte tout ce qui se passe, par exemple.
Mais je pense qu'elle suit, non ? Elle a la possibilité de vraiment regarder ce que tu fais et toi aussi d'être au courant de votre actualité, quoi.
La vérité, j'en sais rien du tout. Parce que quand je les revois, c'est pas souvent, c'est 2-3 fois dans l'année, c'est pas genre, t'as suivi tout mon actu.
T'as vu ma vidéo ou pas ?
Les pubs, c'est un QCM.
C'est un certain univers. Encore YouTube, je pense que c'est assez accessible, mais notamment Twitch, même si ça se démocratise de plus en plus, ça reste un peu de niche. Tu t'intéresses de base pas trop aux jeux vidéo ou autres. Elle, je pense que c'est clairement pas son cas, par exemple. Okay. Ça lui parle pas du tout. Ouais. Si je lui dis, sur Instagram ou je fais ça, elle va me dire, ah ok, mais ou TikTok.
Ah.
À la limite là, ça va plus lui parler. Mais par contre, Twitch, voilà, vraiment, je pense pas que ça la touche, tu vois.
Bon, après, si elle est un peu curieuse, elle peut le suivre en tout cas.
Ah, oui,
aisément. Est-ce que toi, Pierre, tu es fils unique?
Ouais.
Voilà.
Enfin, c'est ça. Non, mais après, j'ai une sœur qui s'est greffée dans la famille. Enfin, j'ai une sœur, à savoir, je partage pas de lien de sang, mais sur le papier, mon père a adopté.
D'accord.
Cette jeune femme. Et donc, du coup, très tard, voilà, j'ai eu cette notion de sœur, mais après, j'ai jamais vécu
c'est pas la vraie notion de sœur. Pour moi, un frère ou une sœur, c'est quelqu'un qui, à un moment, soit t'a emmerdé, soit il t'a emmerdé.
Et c'est ça. Et là, moi, je vivais ça. C'est, en fait, je disais que ça me fascinait, le monde de la fratrie et tout ça. Il y a une certaine puissance de loin ou quoi que ce soit. Mmh. Je me dis, moi, j'avais une certaine solitude et tout ça, mais chez les autres, je dis, oh, il y a le grand frère, il y a la grande sœur, et tout comme ça. Et du coup, je voyais ça un peu avec mes cousins. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me traumatisait beaucoup de voir les gens se défoncer la gueule, se faire des pranks ou des trucs comme ça. Et moi, je ne comprenais pas ça. Quoi.
C'était très charnel. Avec
alors moi, j'évite de frapper des enfants, du coup. Donc, j'évite, non.
Fais pas ça, s'il te plaît. Et toi, avec ton frère, parce que vous avez très peu d'écart.
On a très, très peu d'écart. Ouais. On a un tout petit peu moins d'un an. Et du coup, on est extrêmement proches.
Ouais.
Mais même aujourd'hui, en fait, tous les jours, je lui envoie des messages. Il m'envoie des mèmes.
j'ai du mal à communiquer avec lui. J'aime bien ça. Je parle de mes problèmes, il m'envoie des mails.
Il me répond avec un mail. Il est en mode ouf, cringe.
vous chamaillez souvent.
En fait, c'est que.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
On faisait tout ensemble, tout le temps. Et ouais, du coup, on passait de l'état de je t'aime trop à j'ai envie que tu meurs. Et vraiment, c'était instantané.
C'est la fraternité. Mais pour moi, c'est vraiment ça.
Ouais. Je comprends pas.
Mais contre Léo, j'avais vraiment des états de rage des fois où tu sens que t'es en mode. T'as toute la haine de ton corps qui veut sortir et t'es là. Yeah! Et tu veux le tuer. Et lui, c'est pareil de son côté. Et 5 minutes après, c'est tranquille.
Ok. C'est, alors, j'aime beaucoup finalement cette balance. Mm. Bon, en l'occurrence, avec mon grand frère, c'était vraiment beaucoup plus dans la rage que dans l'amour. Mais il est très. Quand je parlais du truc charnel, où il pouvait me taper toute la longueur du temps, il le faisait avec grand plaisir.
C'était même pas drôle, il n'y avait pas des petits pièges ou des trucs comme ça, c'était vraiment littéralement te
des
frapper.
Trous avec des pics.
Ouais, je sais pas.
Du coup, moi, j'étais comme toi, tu disais, tu vois, j'essayais de trouver des trucs un peu pernicieux parce qu'il faisait le double de ma taille, il était beaucoup plus costaud, etc. Il faisait du sport, moi, je faisais des gribouillis, tu vois. Et donc, j'essayais de trouver des trucs un peu perfides pour essayer de contrebalancer la vie ruinée, tu vois.
Maman
J'ai essayé de l'emmerder. Et puis, en fait, je comprenais pas que c'était parfaitement vicieux puisque plus je trouvais des petits trucs de merde pour le faire chier, plus il me rendait la vie infernale. Donc voilà. Et après, mon petit frère, ma petite sœur, du coup, on a pas mal d'écart et on n'est pas rentré dans ce truc-là, mais avec mon grand frère, c'était vraiment l'enfer, quoi.
Mais je pense que psychologiquement, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est totalement différent quand t'es enfant unique ou qu'il y a un écart comme ça, parce que je pense que t'es beaucoup plus à l'aise avec la confrontation, en fait, parce que t'en as l'habitude aussi, que ce soit avec tes frères. Alors que par exemple, quelqu'un qui est enfant unique, ou moi, je pense, c'est un truc qui me. Notamment la confrontation physique. J'ai jamais eu quelqu'un qui fait une grande claque derrière la tête, tu vois, des trucs comme ça. Un gros chassé, tu vois, ou juste m'a embêté juste pour m'embêter, tu vois. C'est pas un truc dont j'ai l'habitude. Donc, je pense que dans la vie, je le gère différemment de quelqu'un qui a ses habitudes et qui tanque, en fait.
Ouais, t'as raison que je pense qu'avoir un.
Moi, m'engueuler, même avec mes parents, ou m'engueuler avec d'autres gens ou des amis, tout ça, pour moi, c'était mettre un point final à notre aventure, en fait, tu vois. Ou que les gens allaient soit m'abandonner, ou vraiment se suicider, j'ai trop les blessés, ou tout comme ça. Et du coup, même moi, là, à 33 ans, dans ma communication, le fait de verbaliser les choses, c'est toujours. Problématique. Bon, après, j'ai d'autres soucis. Mais ouais, mais c'est vrai que ça part de là. Et effectivement, en tant qu'enfant unique ou partagé, c'est vrai que c'est trop bizarre émotions, le conflit. Quoi.
Parce que tu vois, tu disais, toi, tu peux vraiment passer de j'ai envie de te buter à je t'aime tellement. Ouais. Moi, j'ai plus ce recul de ça va pas trop. Bah, on va laisser un peu de temps quand même. Je peux pas switcher comme ça. Alors que je pense que dans une grosse fratrie,
c'est le foutoir. Mais c'est marrant parce que moi, je suis quelqu'un d'hyper honnête. Et j'ai besoin d'être honnête et de.
On déteste ce genre de personnes.
Non, mais de dire ce que je pense aux gens. Et quand je les aime pas, bah, je leur dis. Et du coup, j'ai des problèmes. Mais du coup, quand je les aime.
Ça fait un point commun.
Je leur dis facilement. Et, et je parlais de ça avec d'autres potes il y a pas longtemps. Qui me disaient que, non, eux, ils ont beaucoup de mal à partager leurs émotions. Et je pense que ça vient aussi des échanges que tu as quand tu es petit. Et par contre, ironiquement, Léo, je lui dis pas que je l'aime. Mais je peux lui dire que je le déteste et j'aurais pas besoin de m'excuser après.
Peut-être tu peux lui dire que tu le détestes à nouveau, peut-être.
Ah ouais,
si tu le regardes. Voilà, quoi, la déteste. Hein.
Cordialement. mais ouais, c'est vrai que je sais qu'on n'a pas besoin de ça, mais on a une base stable. Et cette base, elle a été travaillée parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup voyagé ensemble. Et on a eu beaucoup de choix aussi de pas voyager ensemble. Et on a quand même décidé de faire des projets ensemble. Et quand t'as un frère, je pense que c'est pas automatique et que c'est une relation qui.
T'as ça pas l'impression, énormément,
t'as pas l'impression, mais en fait elle est fragile et personne te dit fais gaffe parce que là tu risques de faire des dégâts et ça c'est pas rattrapable quoi.
Alors nous on a plein de témoignages de gens qui nous racontent des trucs très drôles, mais t'as raison que c'est un truc sérieux et même moi au sein de ma fratrie, le fait qu'on ait beaucoup d'écart avec mon petit frère, ma petite sœur et qu'avec mon grand frère soit très conflictuel, j'ai un peu du mal à maintenir et à préserver ce lien fraternel, tu vois. Parce que pour moi, je sais pas trop faire, tu vois. C'était soit le conflit, soit je sais pas trop comment ça marche. Et je les aime de tout mon cœur, mais c'est dur de le montrer, de faire des choses.
Il y a tout un cadre familial aussi qui rentre en compte. Parce que moi, par exemple, je la vois moins parce que j'ai pas forcément d'affect très fort avec du côté de mon père, sauf qu'elle vit avec lui. Ouais. Donc forcément, ça affecte ta relation par escalier, quoi. Donc du coup, pareil, tu l'aimes, mais t'as pas autant de temps que tu le voudrais parce que ça dépend aussi de ton cercle, de plein de choses qui est lié à la famille. On a l'impression que c'est très fort parce que le lien du sang, mais c'est limite plus fragile des fois parce que tu maîtrises pas tout, quoi.
D'ailleurs, votre relation, elle a évolué avec le temps ou elle était toujours très stable depuis que vous avez...
Elle s'est stabilisée. Et je pense à ça parce qu'il y a des moments où on aurait pu vraiment complètement se séparer et arrêter de se parler totalement.
Il y a un moment où c'était un peu plus l'éloignement ou alors c'était possible...
Ou tu sais, tu parles pas pendant très longtemps parce que t'es pas côte à côte. Ouais. Et au final, tu te dis, ah oui, c'est vrai quand même que j'ai besoin de cette personne. Mmh. Et c'est vrai que... On a vécu des milliards de trucs ensemble. Après, nous, c'est un peu particulier parce qu'on a grandi sur un bateau. Ensuite,
oui, vous avez une vie qui était fraternellement, s'est passé quelque chose de.
C'était pas un cadre assez classique. Et
je repose la question comme pour la Thaïlande. Pourquoi t'as vécu sur un bateau tout simplement.
Ben ça, c'est mes parents qui ils voulaient traverser l'Atlantique en bateau. Et
c'est leur métier, c'est leur.
Non, ils ont tout passion. Plaqué, ouais, pour partir. Et du coup, ils ont acheté un vieux bateau qui était une épave. Qu'on a retapé quand on était petit pendant plusieurs années.
Donc retaper un bateau, ça crée des liens fraternels, j'imagine.
Ouais, aussi, ouais. C'est vrai que les chantiers et travailler ensemble, c'est vrai que.
Après, ça donne des outils pour frapper ton frère.
Oui, ouais. C'est vrai. Bien plus lourd.
Tu sais que c'est plus dangereux, quoi. Du coup, tu réfléchis plus au poids de tes actions.
À mon avis, tu apprends à esquiver, tu vois.
Là, je vais noir.
Si j'avais grandi sur un chantier naval, je serais pas là avec vous ce soir. Mon grand frère leur fait c'est suffisamment contondant.
Adios. Putain, le tétanos.
Allez, d'accord. Donc là, forcément, sur un bateau, il y a une proximité.
Ouais. Et après, on est arrivé en Guadeloupe, du coup, avec ce bateau. Après avoir voyagé entre les îles et du coup on reste en Guadeloupe parce que mes parents là ils arrivent à un stade où ils ont plus de thunes, il faut choisir une île ou rester et là en fait on est sur une île paradisiaque où les activités c'est genre faire du surf, de la planche à voile, se baigner dans des lagons.
Vie nulle, nous on déteste ça, terrible.
Du coup c'est un peu plus, t'as moins le temps de détester quelqu'un quoi.
Plus de fun
dit comme
quoi.
Ça c'est marrant, ouais. D'accord, ouais, c'est, donc c'est. C'est beau, hein. Moi je trouve que c'est super, c'est une belle histoire.
Je suis jalouse, hein, vraiment. Ouais.
Donc voilà, faites ça.
Parce que là,
ça,
vous êtes dans des postures de petits frères. Là, on a une grande sœur. Et du coup, c'est
moi, j'ai une
plus
petite
compliqué.
Sœur aussi,
ok, donc t'es quand même le grand frère aussi.
Je suis ouais, le grand frère de deux personnes. Mais
du coup, c'est une autre responsabilité d'être grand frère, enfin, par rapport à être petit frère, et c'est ça de différent.
Wow. Alors, j'ai jamais inclus déjà la notion de responsabilité au global dans ma vie.
Alors, vie.
Auprès de mon petit frère et ma petite sœur, non, je pense pas d'être de bons conseils pour eux.
Mais je pense que ça forge par contre, parce que moi, j'ai une partie de moi qui aurait voulu avoir quand même quelqu'un au-dessus, mais comme il n'y avait pas, il fallait que je me débrouille sur plein de choses, sur plein de questionnements, tu vois, où je me dis. Ça a l'air cool quand même de pouvoir discuter avec quelqu'un et ça te rend peut-être. Enfin, moi, ça m'a rendu un peu plus dur sur certaines choses aussi. Du coup, j'ai tendance à transmettre beaucoup parce que je me dis ça peut servir et à éviter certaines erreurs.
Côté maman,
tu vois.
Là, avec. Tu vois.
Eh ouais, toujours.
Du coup, là, t'embrasses à fond le côté grande sœur.
Alors, pour répondre à la question, on était plus proches avant et avec le temps, on se voit un petit peu moins. Mais par contre, je pense qu'on va se re-rapprocher quand elle aura sa propre vie. Elle sera émancipée de ça. Je pense qu'il y a moyen que ça fasse vraiment. Voilà, ça monte beaucoup plus parce qu'on aura plus de temps ensemble.
Oui, ma petite sœur qui est montée sur Paris pour ses études. Et donc, du coup, on se croise déjà plus souvent que forcément quand elle est dans le sud. Moi, toute ma famille vient du sud. Et c'est vrai que c'est presque un peu nouveau, tu vois, de se dire, mais on peut se croiser quand on veut et tout. C'est trop bizarre, quoi, tu vois.
Puis t'as plus besoin, tu sais, de jouer vraiment le côté petit enfant quand ça va rentrer, entre guillemets, dans le début de l'âge adulte. Tu vas partager des choses que t'aurais pas partagées avant, forcément. Donc, c'est quand même cool.
C'est une. Moi, j'ai l'impression que ça fait un peu une fraternité un peu en retard, quoi. Il y a ce truc qui peut arriver d'un coup. Mais l'éloignement, c'est très dur de conserver ce truc-là.
Ouais,
moi, je suis quand même très jaloux des gens qui ont une belle histoire fraternelle au sein de leur famille. Quand je t'écoute, moi, ma copine par exemple est très proche de sa sœur et tout. Et c'est trop stylé, tu vois, vraiment trop stylé, quoi. J'arriverai peut-être un jour à créer ce lien-là, je ne sais pas.
Ouais, mais en plus, tu vas arriver au stade où toi, t'as plein de cartes et t'as plein de conseils à lui donner qui vont l'aider de fou dans sa vie.
Alors, j'ai pas le mindset pour me dire je vais donner des conseils aux gens, mais je suis pas sûr que ce soit les bons. Mais en mode père Castor, je vais t'expliquer la vie.
Ouais,
je vais dire.
Ah, moi, je sais que si j'avais la possibilité, je le ferais tellement. Même je le ferais trop.
Le grand frère.
Ouais. Ah, tu sais, j'ai fait les erreurs, fais pas comme moi.
Je te détesterais tellement.
J'ai vécu des choses.
C'est la brûlure, ça, c'était au Vietnam.
Du coup, t'as des expériences horribles à nous raconter.
Ah oui, parce que.
Non, même pas.
Même pas. T'as même pas. Une anecdote de prank de frères et sœurs,
de
frères.
Alors, tu sais quoi, on va te laisser chercher.
Parce que déjà, on a eu des gens sur Twitter.
Alors, c'est Jérôme qui nous dit « Me cacher dans la chambre de ma grande sœur au moment où elle et son copain vont se coucher. » Oh merde. « Je ne pensais pas qu'ils allaient se mettre à poil, naïf que j'étais 10 piges. Je suis sorti de ma cachette au bout de 30 minutes en criant ta dame. Devant l'air dépité de ma sœur. » Mais putain, je trouve ça vraiment génial. Ah oui, non, mais ça, il ne faut pas faire ça.
Je pense que c'est l'angoisse.
Ouais.
Mais plus pour la sœur, quoi.
Ouais.
Ouais. Moi, j'ai surpris mon grand frère en train de se branler.
Oh.
Voilà. Et vraiment, je rentre dans la chambre en mode hey, sinon, Jonathan. Et là, il y a vraiment le hub.
Ah, mais je comprends mieux maintenant pourquoi il te frappait, du coup.
C'est pour ça.
Ah, bah là, oui.
Écoutez,
ça, tu lui as volé je dérangeais pas 100% de ses masturbations non plus. Comme ça va, on a le droit. Vous c'est un truc que t'as un peu expérimenté, des moments. Un peu t'es arrivé à un moment trop intime?
Non, ça m'est jamais arrivé.
Ok. Là, je te ne le conseille pas.
Ouais, j'avoue,
c'est extrêmement gênant.
J'avoue.
Est-ce qu'on a un autre petit témoignage? Je ne sais pas si ça rentre dans le thème. Je suis fils unique. Bon, clairement, ça rentre pas dedans. Et vers mes 6 ans, je voulais très fort avoir un petit frère ou une petite sœur, jusqu'à ce que je rencontre des voisins qui avaient un fils et une fille de mon âge qui se disputaient tout le temps. Et ben, bah, ils étaient tellement odieux l'un vers l'autre que ça m'a dégoûté des fratries et que j'ai fini par adorer ma situation
c'est
de fils unique.
C'est aussi, hein.
Mais je me rends pas compte si les fils uniques, peut-être que vous vouliez avoir un frère et une sœur ou pas du tout, en fait, vous kiffiez votre situation.
Moi, j'aurais bien aimé savoir ce que c'est avoir une jumelle, notamment. Je trouve qu'il y a une connexion.
Toi, c'est tout ouvert.
Alors, ouais, j'avoue que c'est un peu égotrip. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui me ressemble.
un clone.
C'est juste, je trouve qu'il y a une connexion déjà entre frère et soeur, mais alors dans le contexte vraiment jumeau, je trouve qu'il y a un truc vraiment mystique. Ouais. J'aurais bien aimé savoir ce que ça fait. Okay. Tu vois.
Ah, bah, il y a un super docu là sur Netflix,
Three Identical Strangers.
Three Identical Strangers. Avec ton accent, peut-être, tu arrives mieux maintenant.
Three Identical Strangers.
Mais du coup, voilà, enfin, juste ce contexte-là, j'aurais trouvé ça intéressant. Le reste, pas spécialement, en vrai, ça m'a pas trop manqué. Bah,
moi, pour ma part, c'est après.
Tu fais être fille unique.
Bah, en fait, j'avais une famille qui avait pas forcément énormément de moyens et je me disais, bah, je vais faire moins de trucs s'il y a quelqu'un d'autre.
Non, mais vraiment, personne c'est... horrible. Je pense qu'à sa gueule.
Ouais, non, vraiment. Mais
c'est une bonne réflexion de fille unique, ça.
C'est marrant un peu
parce
égoïste,
que moi, je voyais les enfants uniques exactement à l'inverse de ça. J'étais en mode, ah ouais. Vous êtes riche et tout.
Ah ouais.
Toi, tes parents, ils payent tout.
Bah oui.
Bah, moi, après, ça dépend, mais. Oui. Bah, après, moi, je récupérais des trucs de mes cousins et tout. Et j'avais l'exemple aussi du côté de mes cousins où ils sont 3. Donc, du coup, moi, en plus, je passais beaucoup de temps avec eux. Donc, si je voulais vraiment avoir un rapport presque fraternel, j'allais avec eux, on était tout le temps ensemble. Et en même temps, bah, du coup, moi, j'avais tout pour moi.
Mais
moi cool.
Pour moi, comme on est dans une famille de 4, pour moi, c'est genre fille unique, c'est, je n'arrive même pas à comprendre, en fait, quel quotidien ça peut être, en fait. Bah, c'est fou, je trouve.
Bah, moi, j'étais juste envieux, c'est sur les trucs genre divorce, drames familiaux, où je me dis, je rêvais vraiment d'avoir un grand frère, une grande sœur, tout ça, pour tanker ça ensemble, quoi.
Ah ouais.
Et c'est vrai que quand t'as un divorce, tout ça, tu restes le seul, le centre d'attention, un peu le messager ou quoi que ce soit.
Ouais.
C'est juste
horrible. Je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités quand t'es fils ou fille.
Bah ouais, parce que bah t'es le seul enfant.
Tu dois
pas
être décevant déjà.
Donc voilà, déjà aussi. Et non, mais c'est vrai que je me dis, putain, j'enviais de pouvoir me confier justement aussi à des gens ou quoi que ce soit que j'avais pas. Et ça, je pense que c'est très important, quoi.
Ouais, en fait. Finalement, t'as peut-être un peu raison parce que sur même le développement, même en tant que femme, ça aurait été trop bien d'avoir une grande sœur sur certaines choses ou quoi, de pouvoir en parler, notamment dans les drames familiaux, mais même juste dans ton développement personnel sur des erreurs à éviter ou des messages que t'enverrais dans les mauvaises. Enfin, tu vois, c'est bien de pouvoir en parler avec quelqu'un de confiance. C'est vrai que ça manque. Ouais.
Moi, je suis quand même étonné que t'aies vécu avec ton grand frère et que t'as même pas le souvenir d'une crasse que vous êtes fait. Ce moment où tu te dis, j'ai envie de me venger.
Non, mais le truc, c'est un état perpétuel. Du coup, c'est un peu compliqué.
C'est, dans le détail, t'arrives pas à trouver.
Mais j'en ai une, mais c'est quand on était vraiment tout petit. Ouais. Et ma tante, elle m'avait cousu un dinosaure en soie. Parce que, en gros, moi, quand j'étais petit, j'étais assez bizarre. J'aimais bien les étiquettes. Et
ah oui, les trucs qui sont tout lisses.
Toutes les étiquettes, ouais, je les prenais comme ça. J'étais
parce qu'elles frottent hyper bien entre elles.
C'est la Cécido. et du coup, elle m'avait fait une espèce de peluche.
Entièrement dans la matière d'étiquettes qui devait te plaire énormément.
C'était incroyable. je rêvais. Et Léo, un jour, il l'a prise et il l'a mise sur une lampe avec une grosse ampoule. Et il l'a laissé brûler. Et il a dit, je l'ai caché, tu vas jamais la trouver. Et moi, j'étais là, quoi? Et je la cherchais partout parce que je savais qu'en plus, lui qui me dit ça, ça voulait vraiment dire, dépêche-toi de la chercher parce que là, j'ai laissé un peu cuire et tout. Donc, je l'ai cherché partout. Et en fait, quand je l'ai récupéré, elle était fendue, elle était cramée et j'étais tellement.
Tu devais être dégoûté.
Et lui, il était content. Et je me suis dit, donc c'est ça, l'humain. C'est possible d'être aussi méchant, d'être aussi mauvais.
Ah, parce qu'il savait que ça allait brûler.
Ouais.
Il l'a pas fait même pas exprès. Quelle horreur.
Mais tu sais, parfois, les gens se disent « Mais pourquoi il y a la guerre dans ce bas monde ?» Et regarde juste deux frères.
Un petit dinosaure en soi. Ça commence
déjà. Genre, toi, t'aimes bien ça ? D'accord.
Et je le détruirai.
Tu subissais juste, il n'y avait pas de vengeance, quoi.
Non. Enfin, j'essayais de me venger, mais ça marchait jamais. C'était pas.
Même pas via les parents, essayer de.
Si, mais ça marche pas. Les parents, ils sont en mode. Ah, ils sont en mode, mais non.
Ça, je témoigne.
Sois créatif, venge-toi vraiment là.
Ouais, je témoigne. Mes parents s'en battaient les couilles de tout ce qui était gros conflits. Et c'était. T'as l'impression qu'ils. Sur cet aspect-là, ils fuyaient vraiment leur responsabilité, si je puis me permettre. C'était vraiment. Ah, des embrouilles. Ouais, mais c'est lui qui a commencé, etc. Et ils voient qu'ils. C'était genre, je ne peux pas trancher, démerdez-vous.
Bienvenue dans la société.
C'est injuste, c'est ça.
C'était pas à mon avantage, puisqu'il faisait quand même deux fois ma taille, il était bien plus costaud, tu vois. Donc c'était j'étais toujours baisé dans cette histoire.
Quoi. Ah ouais, c'était vraiment. J'ai l'impression vraiment que c'est épanouissant. Ouais.
Mais je me rappelle d'une fois, parce que du coup, mon frère très bagarreur, etc., très fort. Moi, ouais. j'étais vraiment le mec qui faisait art plastique au collège, tu vois. Donc vraiment quelqu'un de très sage et tout. Et lui, il m'a accroché les bras, il me faisait des clés, des trucs, il me poussait et tout, tu vois, non-stop. Et une fois, je devais avoir une dizaine d'années, donc lui, il avait 3 ans de plus, donc 13 ans. Je sais plus comment on se... Moi, j'arrivais à rien, tu vois. J'avais pas du tout de force. Et j'avais juste donné une sorte de petit coup de... J'avais vu qu'on pouvait faire des béquilles, c'est-à-dire donner un coup dans la cuisse, tu sais. bah, tu sais, t'en viens à étudier l'anatomie, tu vois. Ce qui est bizarre quand t'as 10 ans. Mais je me suis dit, putain, je sais que ça existe, un coup de béquille, tu vois, un coup de genou dans le côté de la cuisse, quoi. Et je l'avais fait un tout petit peu, genre, tiens, j'essaie de me débattre, etc. Et j'ai dit, ok, j'ai essayé de viser avec mon petit genou de merde, là. Et je fais hop, comme ça. Hop, il tombe de tout son poids, il faisait « Ah, au sol !» Et j'avais l'impression d'avoir fait Bruce Lee, tu sais, la technique de je sais pas quoi. Je m'étais senti tellement puissant, et le temps qu'il se remette debout, après là, c'était terminé pour moi. Mais...
Toutes les deux semaines d'entraînement dans la chambre.
Mais non, c'était la première fois, je me suis dit « Ah, grâce à ma technique, j'ai réussi à le faire vaciller. »
Est-ce que tu l'as reproduit une autre fois après celle-ci ?
Bah, après, il a maintenu une pression telle que je pouvais plus rien faire.
Okay.
Mais putain, c'était...
C'est Malcolm, quoi.
Non, mais c'était ça, ouais. Est-ce qu'on a des petits témoignages audio, peut-être?
J'ai fait exploser ma piscine avec mon frère à l'intérieur. À l'époque, je devais avoir 10 ans et mon frère 9. Exploser. On était en train de se baigner dans notre piscine qui était en boudin gonflable. Ah. On a commencé à chamailler. Je suis sortie de la piscine et j'ai trouvé sur la terrasse un jouet qu'il avait laissé traîner.
Non.
Il faut savoir que je suis très maladroite et j'ai voulu tenter de feinter. Pour lui balancer ce jouet en pleine face. Sauf que maladroite que je suis, et main mouillée en plus de ça, le jouet m'a glissé des mains et est retombé pile sur la couture de la piscine. Faut savoir que, enfin, j'ai checké par curiosité, hein, mais une piscine comme ça, c'est environ 13 mètres cubes, 13 000 litres d'eau qui partent en fumée. La pression était telle que mon frère a eu le temps de juste se tenir à l'échelle. Ses pieds ne touchaient plus sol. Et la terre était tellement sèche que l'eau n'arrivait pas, enfin, la terre n'absorbait pas l'eau. Le jardin était inondé, la terrasse était inondée. Mon père, qui était dans le garage, à l'opposé de la piscine, a eu de l'eau qui commençait à rentrer dans le garage, sachant en plus qu'il y avait une petite marche pour entrer dedans. C'était catastrophique. c'était vraiment quelque chose. Et mon frère a eu une belle peur, mais le lendemain, il m'a quand même demandé si on pouvait recommencer.
Toujours ça, c'est ça finalement.
Mais oui, ça résume bien, c'est que tu fais une connerie de ouf, tu vois, et derrière, c'est en mode bon, bah vas-y, on est là ensemble, alors continuons.
Mais, enfin, mais c'est quoi le jouet pour percer une piscine?
Ouais, c'est un bas d'éclair comme ça.
C'est un couteau papillon en fait.
Ah oui, on jouait qu'avec ça.
Et moi, l'image qui me fait rire, c'est juste accroché avec l'eau et qui finit par partir en mode.
Et surtout les parents qui ont dit hey, on a acheté la piscine, on a un peu serré la ceinture pour les gamins, et ça rejoint vraiment les trucs où tu par énervement, parce que là c'est ce qui s'est passé, peut-être elle a voulu
frustration, quoi.
Elle était ce truc là, elle a jeté et le truc a fait dans la couture.
Elle a dû se sentir un peu puissante elle aussi, mais quand même un peu trop, tu vois.
Ah non, là je pense que tu perds ton sourire, enfin je pense que là tu vois tout le truc qui se divide, c'est d'être horrible. Ouais.
Je pense à la punition.
Ah ouais.
Ah oui, les punitions.
Bah là t'es obligé.
Ouais. Putain, j'avoue. Diane qui nous parle d'un truc
vraiment. Écoute Diane,
juste de la torture, quoi.
Quand on était petit avec mes frères, donc ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Quand on était en voiture, je devais m'asseoir au milieu parce qu'ils n'arrêtaient pas de se taper dessus. J'avais des cheveux longs.
Ouf,
et depuis cette époque où je devais m'asseoir au milieu, j'ai fini avec les cheveux aussi courts que des garçons parce qu'ils n'arrêtaient pas de tirer dessus. Voilà.
Mais quelle horreur.
Et vraiment, dis-moi, je regardais des témoignages et des trucs comme ça, mais il y a des trucs, c'est Guantanamo en fait. Vraiment, c'est de la torture physique. Et tu dis, comment ça passe?
Mais ça,
c'est de l'amour, c'est beau.
On en, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais les quand dans les fratries, il y a des filles, et les cheveux, c'est vraiment, comment dire, une faiblesse inouïe chez, là-dedans. Parce que tu peux te défendre, etc., etc., mais les cheveux longs, tu tires dessus. C'est, nous, ça va, parce que je me chamaillais qu'avec mon grand frère. Donc, mais si j'avais été une fille, ou si j'avais eu des cheveux longs, mais c'était... terminé pour
là,
moi.
C'était trop point talon d'Achille en un être humain. Là,
j'avais des copines qui sœurs, se laissaient pousser les ongles exprès quand elles se battaient avec leurs frères.
Ah, ça c'est alors, smart.
Ça c'est l'école de la street là.
Vraiment, c'est-à-dire qu'elles avaient... Pourquoi elles disaient parce que c'est que comme
pour
ça que je peux
défendre.
Faire mal. Mordre et griffer, genre c'était le truc. Ouais.
J'aime bien ce côté animal. De...
Donc, s'il y a quelqu'un qui fait un témoignage, il dit « Ouais, j'ai mordu mon frère, sauf que j'avais pas de dents. » Et je l'ai fait saigner. J'étais genre, wow. Et, il te raconte ça, il était fier. J'étais genre,
non.
Wow, okay. C'est-à-dire que dès nourrisson, tu mordais les gens. J'étais genre, wow. Ouais.
Okay. Mes parents pas sereins. Genre, quoi,
ah oui, effectivement.
Un autre témoignage, c'est trop mignon. Pas mignon, non, c'est juste très flippant.
Du coup, mon anecdote, elle se passe dans une aire de jeu McDo. J'avais 6 ans et mon frère devait en avoir 4 ou 5. Et je sais pas pourquoi, on jouait à se courir après.
C'est normal.
Et il me poursuivait. Et en gros, à la sortie de l'aire de jeu, il y avait genre des espèces de punching ball, mais un peu mou, tu vois, accrochés au plafond.
Qui ont été enlevés depuis, je crois.
Et je sais pas pourquoi, je me suis dit que ce serait super drôle si je l'attendais à la sortie de l'aire de jeu avec un de ces punching balls dans la main.
C'est pas mal ça.
Et que je lui balançais au visage très violemment.
Très bonne idée.
Du coup, je l'ai fait. Il est tombé, j'ai rigolé, mais il s'est pas relevé. Enfin, si, mais. Il a mis un peu de temps à se relever. J'ai eu le temps de paniquer et de comprendre que j'avais fait une connerie.
Ah bah oui.
Du coup, il s'est relevé en pleurant. Il est allé prévenir mes parents. Et je pense que j'ai pris la fessée de ma vie. Ce mais j'ai pas de regrets parce que c'était super drôle.
Mais
la conclusion, ça valait une bonne fessée.
On est d'accord que quand tu joues avec des amis, des gens qui sont pas de ta famille, tu penses pas à des plans comme ça où tu dis je vais l'attendre, je vais utiliser la force du truc pour l'envoyer. Mais quand c'est des frères et sœurs, c'est ouf comme son imagination.
Il y a ce truc aussi d'expérimentation que tu ferais pas sur toi, mais sur un frère.
Ah oui, qu'est-ce qui se passe sur putain.
Parce qu'il y a des gens qui coupaient les cheveux de leurs petits frères et sœurs, trucs comme ça juste pour s'amuser ou quoi que ce soit. Et je me dis c'est fou quand même. Est-ce que tu as testé des choses? Non, des sévices, toi, pour couler un
sévices corporels.
Vous êtes beaucoup trop sage. Je pense que vous êtes beaucoup trop bien élevé.
Équilibré, quoi. Ah c'est fou.
En fait, moi, je jouais avec lui. Du coup, si je le tapais trop, on ne jouait plus. Et du coup, c'était plus marrant. Du coup, j'étais obligé de penser à ce ratio divertissement violence.
En fait, tu pensais déjà à long terme.
Trop violent.
C'est vrai qu'à long terme, tu étais obligé de te dire, on va...
Il y avait beaucoup de jeux à deux. S'il n'était plus là, c'était dommage, quoi.
Puis on dormait dans la même chambre et c'était... Sinon, si tu commences à te battre la nuit... Là, c'est un autre level de...
C'était quoi? Alors,
ah oui, bah oui.
Mais un jour, j'ai cassé une porte parce qu'il ne voulait pas l'ouvrir. Et il la bloquait.
Quoi?
Et il était en mode, non, tu ne sors pas. Et moi, j'étais en mode, si, je sors. Et j'ai commencé à taper contre la porte. Et il continuait à bloquer la porte. Et du coup, j'ai couru. Et je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai mis un coup de pied dans la porte. Et j'ai fait un trou dans le bois du bas de la porte. Et j'étais en mode, merde.
Ah bah oui, plutôt.
Comment faire?
Et là, t'es... Ouais, bah. Papa, maman,
du coup, j'ai rien dit et c'était encore pire de rien avoir.
Ah putain. Est-ce que je suis obligé de poser la question parce que, mais bon, si vous n'avez pas de frères et sœurs, est-ce que toi, il y a des jeux qui étaient vraiment uniques à votre fraternité, tu vois? Des trucs où tu te dis, mais tu sais que les autres gens ils jouent pas ce genre de trucs. C'est bon, moi, je sais que, avec mes frères et sœurs, même avec de la famille, des cousines et tout, il y avait des trucs, tu vois. On s'amusait à créer des châteaux avec des canapés, des trucs de... Mais j'ai le souvenir hyper vif. Et je sais que c'était vraiment très spécifique à des gens.
Nous, on avait vu un plan pour fabriquer un truc avec des diodes lumineuses qui nous permettaient de faire du télégraphe, mais lumineux, dans la nuit. Et en gros, on appuyait... En fait, c'était une LED. On avait fabriqué une
LED. C'est très bien dit pour
une... Mais on était tout petits. Et du coup, on était hyper fiers.
Une lumière que tu...
Une petite lumière, ouais. Et ça allumait une toute petite ampoule rouge comme ça.
Très bien.
Et Léo, son lit, il était de l'autre côté de la pièce. Bon, il était genre à 2 mètres de moi. Mais dans mes souvenirs, il était hyper loin quand on était en France. C'était avant qu'on traverse l'Atlantique. Et du coup, on s'envoyait des signaux comme ça.
Et vous en avez un chacun ?
Et on avait un petit manuel pour décrypter. On en avait un chacun. Ouais.
Et carrément un télo, quoi.
C'est ça. C'est... Mais on savait pas lire. De toute façon, on n'avait pas de lumière pour éclairer le manuel. Et du coup, on était en mode. T'as compris ? Et t'es là. Ouais. T'as compris ?
Il est débile, quoi. Je trouve ça trop mignon. Est-ce qu'on a peut-être quelque chose qui contrebalance cette mignonneté avec un truc horrible, avec de la violence ?
Non, j'ai un truc mi-horrible, mi-mignon. Ah, mais la fin, c'est autre chose.
On a été à un magasin avec mon frère et ma mère, donc quand on était petits. Et mon frère voit des bonnets trop grands pour des enfants. Okay. Donc il me le met, donc je ne vois rien du tout. Et il me dit « Cours, et s'il y a quelqu'un, je te le dis ».
Non.
Et donc, je commence à courir.
Oh, quelle belle confiance.
Et je me prends un poteau en béton. Et donc, l'excuse de mon frère, c'était ben, j'ai dit que je te prévenais s'il y avait une personne, mais pas un poteau en béton.
Kawaii. Donc,
voilà, déjà. Et en fait, je commence à saigner du nez. Et donc, pendant tout le reste du magasin, ben, j'ai essayé de cacher que je saignais du nez. Donc, je ne sais pas si ça a fonctionné, je ne sais pas du tout, mais voilà.
Donc là, de là à faire saigner ton propre frère. Non, mais genre, non, toi, ça va, ok. Non,
oh ouais, bah, c'est bon. Ouais. Ça va, c'est saigner du nez, bah oui, petit
joueur. Ah oui, saigner du nez, ça va.
Ah oui, bah,
j'ai l'impression que ton enfance, mais moi, non, mais ça va pas pour
non, mais non. Moi, la seule fois où j'ai saigné du nez, c'est parce que je me suis pris une porte, et je m'en rappelle encore, c'était en primaire, une porte de toilette qui m'arrivait, et c'était le drame de ma vie, donc...
Écoute, moi j'ai vécu la guerre.
Ah ouais, non, mais c'est ça en fait. Il y a un côté vraiment. Bah, ça serait à Koh Lanta quoi, l'étape d'après. C'est
vraiment... J'ai pas envie de reproduire ça non plus, donc tu vois.
Mais vous pétiez beaucoup de trucs, petit ?
Non,
seul
pas
du
trop.
Moins, non, ça
non,
va.
Non, pas trop.
Pas trop de sous, ouais. Toi, non, ça va.
Non, j'essayais de pas me faire mal. Mais ouais, on se faisait souvent mal. Ouais.
Bon. J'avoue, tu te pètes un truc au milieu de l'Atlantique. Là, c'est chaud quoi. Donc t'as une conscience.
Ça dure combien de temps le voyage ?
C'est une vingtaine de jours, un truc comme ça.
Vingtaine de jours. T'as un bon souvenir ?
Ouais, c'est incroyable. C'est trop bien. T'es sur. T'avais quel âge, dans ta maison. J'avais 10 ans. 11 ans, je crois.
Incroyable.
Et t'es dans ta maison, mais qui flotte. Ouais. Et qui bouge, mais qui te berce quand tu dors. Tu dors trop bien sur un bateau.
Ah ouais.
Et tu te lèves le matin et tu vois une ligne d'horizon autour de toi.
Ouais, putain.
Tout autour. Et tu sais qu'il n'y a rien.
Et t'as pas eu de genre. Je sais que parfois il y a des grosses vagues, des gros trucs, si.
Si, d'ailleurs, j'ai une anecdote avec Léo que j'ai pas mis dans l'épisode que j'aurais dû mettre. On était à Hierro. Donc je crois que c'est aux Canaries. Ouais, c'est ça. C'est juste quand tu vas dans l'Atlantique, il y avait une énorme tempête, et vraiment la plus grosse tempête que j'ai jamais vue de ma vie, et que mes parents n'ont jamais vu de leur vie non plus.
Tout le monde était flippé dans le bateau là.
Ah oui, là tout le monde était malade. Mais c'était des vagues de 9 mètres qui sont immenses, et t'es là en mode, bah, du coup, on va peut-être mourir. t'es trop dans le stress pour penser à ça. Quoi.
Quand t'as 10 ans, qu'est-ce que tu sais, dans ta tête, c'est genre, bah, c'est ciao pour moi.
Sinon, vivre à Boulogne, c'était bien aussi.
Et en fait, au départ de cette tempête, on était au port, et là, en fait, une tempête au port, c'est horrible parce que le quai sur lequel t'es attaché, nous, c'était un quai en béton, il bouge pas, mais la mer, elle monte, et ton bateau, il tape contre. Et le bateau qui tape contre le quai, surtout quand tu dois traverser l'Atlantique, c'est hyper flippant parce que t'es limite mieux au milieu de l'océan à te faire baloter. Ouais. Surtout qu'un monocoque, il a une quille en dessous, donc s'il se retourne, il va forcément revenir à la verticale. Et du coup, on est là en train d'essayer de mettre plein de pare-battages, de renforcer les amarres et tout. Et là, il y a Léo qui est dans le bateau, sur l'ordi de ma mère, comme ça, en train de jouer à Silver. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Silver, c'est un vieux jeu qui était trop bien. Et il était en mode, attends, je suis en train de battre le boss. Et il était en train de battre un espèce de boss, c'était un gros rat.
Alors que tout le monde risquait sa vie.
Et
quoi.
On était tous en train de galérer. Mais genre vraiment, tu sais, t'as le bateau, il monte de 2 mètres et il tape et tout. Et toi, t'es là, t'as ta jambe qui vient de manquer de se faire écraser par 18 tonnes de bateau. Et lui, il est là en train de jouer contre un gros rat. Et j'étais là, putain, ça, je te le ressortirai, mon gars.
Mais j'aime beaucoup cette anecdote parce que c'est vrai que les jeux vidéo, parfois, ça te focus.
Oui, mais le level max, c'est genre, tu loupes 5 minutes du repas. Pas potentiellement
la mort de toute la famille.
Il aurait mis escape et il aurait mis la pause.
Ouais,
bah, vraiment.
Ah oui, d'accord. Écouteurs
Skype. Pardon, c'est pas. Ok, ok. Oui, effectivement,
il avait pas internet à l'époque.
Putain.
Donc, mais c'est assez marrant aussi de voir qu'on était dans un environnement paradisiaque sur un bateau parfait où il y a plein de trucs à faire. Bon, après, ça reste un bateau, il n'y a pas forcément des milliards de trucs à faire, mais c'est quand même plus épanouissant que rester sur un ordi. Et notre jeu préféré, c'était celui-là et Pinball. Et on passait notre temps à jouer à ça.
Les gars sont sur un bateau, tu sais, c'est magnifique.
Attends, vas-y, relance le pinball.
C'est trop pas bien du truc de Windows.
Je pense que quand c'est ta vie, tu te rends même pas compte, Windows, en fait. T'as, bah oui. C'est ta vie, donc pour toi, ouais, c'est pourquoi ça serait différent de ça.
Puis même un écran, c'est fascinant.
Ah ouais, bah, je comprends. Je sais pas pourquoi. Non, mais t'as raison, quand on était gamin, avoir un ordinateur portable ou un truc, c'était le feu, quoi. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde, hey, les jeunes,
oh bah, leur casque de réalité virtuelle.
Ça va,
là,
merci. Hein.
Tu vois, pas trop d'Atlantique et de paradisiaque.
Non, non, du tout. C'est resté assez calme dans ma famille. Mais ouais, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment une différence dans le fait d'avoir ses habitudes et de ne pas se rendre compte. Parce que moi, je me rappelle une anecdote juste de voyage, pas avec ma soeur, mais je gagnais beaucoup dans les lotos, vous savez, d'école, des trucs comme ça. Okay. J'étais devenue un peu la patte de lapin de mon père. Genre, il m'amenait dans tous les trucs, donc les paniers garnis, les pâtés, les machins, les trucs, les jambons que t'as pendant 6 mois à manger. Horrible que tu refouilles à tout le monde.
Si vous gagnez des.
Et ça marchait très bien. On avait ramené vraiment beaucoup de trucs, hein, télé, une autre play pour mes cousins, etc. Et on avait gagné un voyage notamment en Grèce, et je me rappelle que moi j'avais passé.
Mais tu gagnes trop de trucs,
c'est beaucoup. Ah oui, mais non, mais vraiment, les trucs comme ça, j'avais. En tout
mais
cas,
tu t'es même blasé, tu vois, c'est genre gagner un voyage ou ça, dis-moi où, parce que.
Mais les bingos, les trucs comme ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais il n'y a pas une seule fois où je ramenais pas une connerie, tu vois, même. Voilà. Et donc c'était un peu le délire de mon père de m'emmener à chaque fois. Regardez la gosse, elle va faire un truc, tu vois. On sait pas, hein, bon, c'est peut-être un porte-clés, c'est peut-être une télé, tu vois.
J'ai pensé aux enfants magnétiques, là, tu sais, où ils ont. Ah, les gamins, là, ils magnétiques.
Elle a beaucoup de chance, mais dans sa vie, elle va douiller, quoi. Mais non, ouais. Et du coup, il y avait ce fameux voyage en Grèce, et c'est un peu ça, c'est que même gamine, je me rendais pas compte parce que mes parents, ils allaient faire des explos, des machins. Moi, je voulais rester au Mickey Club avec mes potes, quoi. Vraiment, parce que je voulais être avec d'autres enfants, ouais, et je voulais m'amuser, normal, parce que justement, j'avais l'habitude d'être toute seule, et là, c'était le moment de se faire des copains, quoi. Alors que la Grèce m'attendait, quoi. Mais rien à faire.
C'est quoi le Mickey Club?
C'est des clubs que t'as.
Privées, t'as rencontré Mickey ou pas?
Alors non, mais il y avait un mec un peu bizarre avec. Ah. Il avait pas la même voix que Piqué. Mais non, en fait ça c'est les clubs d'enfants au sein des gros clubs de vacances, en fait.
Les resorts,
tu mets les enfants ensemble pour que les parents puissent aller faire les explorations.
Et Mickey, c'est une licence.
Des clubs Mickey sur les plages aussi, effectivement.
Ouais, voilà, t'as des trucs comme ça. Et c'était.
J'ai découvert l'existence il y a 6 mois, donc.
Mais je sais même pas si ça existe encore, honnêtement.
J'ai vu un reportage sur les
clubs Mickey toujours.
Ouais, Mickey Plage, un truc comme ça.
C'était des colos pour gens qui allaient pas dans les colos, c'est-à-dire tu partais avec tes parents en vacances et puis t'avais le Mickey Club. Il y avait tous les enfants ensemble et du coup tu te faisais des copains, quoi. Ouais.
C'est pour nous en fait les filles et filles uniques, parce que j'ai l'impression. Moi j'avais été mis en Turquie, je crois, et je sais pas, c'est peut-être nos parents ils nous laissaient. Parce que c'est vrai, peut-être que vous avez des grands frères, donc vous pouvez vous débrouiller. Donc ils me laissaient.
C'est encore plus dangereux.
Et c'est la première fois où j'étais juste attablé, je sais qu'il y avait un peu. C'était l'Europe, quoi. Ouais. Diverses nationalités. Et à ma droite, il y avait un jeune homme allemand. Et j'étais en train de manger tranquillement. Et à un moment, j'entends un gros « ya !» un peu comme ça, dans mon souvenir. Et là, je regarde mon genou et j'avais une fourchette plantée dans mon genou.
Par cet Allemand.
Et après,
c'est vraiment pas agréable.
C'est cocasse. Et vraiment, après, j'ai eu un espèce de blackout et me réveiller. Ça, j'ai fait une hallucination. Et donc, du coup, on m'a mis dans. C'était un petit club de pirates. Tu sais, c'est un truc un peu Club Med. À la fin, tu fais une grande animation. Et j'ai été littéralement poignardé gratuitement.
Par un Allemand.
Par un Allemand. Et ma mère m'a retrouvé. J'étais complètement. Faillé. Je sais pas ce
que. Du coup, le bateau, c'est vachement bien quand même.
C'est la plus safe. Donc, les clubs, on les conseille pas.
Non, mais il y avait ce truc, je pense, c'est un peu pareil. C'est que tous les gamins qui avaient des frères et sœurs, ils étaient déjà occupés ensemble. Nous, moi, j'adorais me dire « Ouais, est-ce qu'on peut aller au centre aéré? Est-ce que je peux faire une colo? Est-ce que je peux faire... » J'avais envie d'être avec les autres, en fait, parce qu'il y avait des moments où t'es tout seul, c'est bien, mais t'as envie de faire des trucs avec des gens.
Moi, j'étais un peu comme ça aussi. On peut aller en colo sans Jonathan, juste moi. Merci.
Et même sociabiliser sur les petits restaurants de plage ou quoi que ce soit, il y a eu cette phase où tu vas voir un mec grand homme et je peux devenir vraiment ton ami, là.
C'est
génial, c'était le meilleur moment de ma life, quoi.
Nous arrivons malheureusement à la fin de l'émission et on a réussi à parler de notre thématique, ce qui n'était pas donné. Moi, je ne vais pas vous étaler tout ce qui s'est passé violemment dans ma fraternité, mais vous imaginez.
Ça a l'air d'être sensible encore.
On a compris que c'était un peu ninja.
Est-ce qu'il y a eu des excuses à un moment?
Non.
Ah ouais.
Pourquoi faire?
Non, je sais pas, c'est un moment, un repas de famille, genre, ouais, j'avoue, j'ai un peu abusé, je t'aime un peu.
Il va dire que ça t'a forgé, non?
Ouais,
c'est ce qui se fait les pieds.
Mais voilà, quoi. mais je les adore. Hein.
Well.
Et surtout, moi, je n'ai pas reproduit ce schéma-là avec mes autres frères et sœurs. Donc, c'est déjà pas mal. Tu vois, c'est qu'il y a eu une sorte de scission. Bref, on n'est pas là pour faire la thérapie.
Donc, oui, c'est ça.
C'est quoi que. Hein, ça nous aide un petit peu chaque semaine.
Donc, l'équilibre, en fait, c'est avoir juste un frère plutôt là, fils et filles uniques.
Non, mais des grandes familles, des toutes petites, ouais. Elles sont toutes bien, les familles.
Communiquer, ouais. En fait.
Voilà.
Communiquer.
Mais par contre, effectivement, c'est pas trop fort et n'envoyez pas d'objets contondants.
Surtout quand il y a des escaliers en dessous.
Ça, voilà. Bien compris. Nous avons souvent à la fin de l'émission, nous avons des recommandations. Est-ce qu'il y a un contenu que vous avez aimé, que vous aimeriez recommander auprès des gens?
Tiens, je t'en prie.
Moi, j'ai un animateur qui a lancé sa chaîne YouTube. Il s'appelle The Amazing Toboti. Et il m'aide beaucoup pour les épisodes. Il a un style, là pour l'instant, son style est vraiment calqué sur le mien parce que je lui ai demandé de faire la même chose pour mes épisodes pour pas que ce soit trop différent.
Ah oui, c'est donc là on voit les images qu'il a.
Ça, c'est des plans qu'il a clinés sur mes dessins.
Ok.
Et il anime très très bien. Et lui, dans son style perso, quand tu vois un petit peu ses animations, il est un petit peu différent et il va développer son truc, c'est vachement cool. Okay.
The Amazing Toboti,
ouais,
Toboti sur YouTube.
Ouais.
Et il va sortir, j'imagine, du petit contenu.
Il va faire de temps en temps. Vidéos, ouais.
Avamind, do you have any recommendations?
Ouais, moi le dernier truc que j'ai vu récemment, c'était à l'avant-première au Grand Rex de Explore, du coup, qui est le doc qui est sorti de Hit the Road, qui sont un peu connus sur YouTube, mais
c'est une chaîne de
d'exploration. Voilà. Ils font pas mal de parcours, etc. Mais ils aiment bien les trucs dangereux, clairement. C'est-à-dire que c'est un peu leur mindset, c'est dangereux, on y va, tu vois.
Moi, j'ai eu un grand frère, c'est bon, ça m'a suffi.
Et en fait, là, ils ont sorti un docu où ça fait 4 ans qu'ils bossent dessus, où ils vont dans des endroits interdits et non découverts ou jamais filmés, en Ukraine, notamment dans des mines, notamment en haut des satellites, etc. Ils montent au-dessus des ponts comme ça
pour info, ils
faisaient partie du collectif des gens qui sont montés à main nue justement à Tour Eiffel. Il y avait une histoire, donc c'est eux.
Et j'en fais partie aussi.
C'est parfaitement faux. Mais c'est hyper intéressant et surtout c'est un projet qui dure depuis 4 ans et les images sont incroyables. Le projet est fou et vraiment.
Ça va sortir où ça exactement ce documentaire?
Je crois que ça va être sur Vimeo du coup, parce qu'ils ont cherché un petit peu. Mais il a été diffusé au Grand Rex et là notamment ce passage-là qu'on voit là, c'était une mine qui était là depuis des années. Ils ont réussi à faire fonctionner un train dans la mine où il n'y a plus rien, ils ont tout. Enfin, c'est incroyable, vraiment. C'est l'explorateur, mais dans ses.
Le vrai terme d'exploration.
Ouais, vraiment. T'as un côté très Indiana Jones du parcours, quoi. C'est assez ouf.
Explore de Hit the Road, la chaîne YouTube. Très bien. Pierre Lapp, tu te recommandes ?
Moi, j'ai découvert un podcast qui s'appelle Outsiders. C'est un podcast indépendant et qui interroge un peu l'image qu'on a des marginaux. Enfin, de la définition de qu'est-ce qu'un marginal. Donc, ils vont aller voir des marginaux.
Okay.
Et il y a des thématiques, il y a plusieurs épisodes. C'est français.
Ouais. Okay.
Et c'est plutôt cool. J'ai commencé. Et
pourquoi ça s'appelle pas marginaux si c'est français? Ah ah!
Monsieur est comme ça?
Ah oui!
Monsieur est comme ça?
Monsieur est comme ça.
Je sais pas, sur Spotify, le reach, l'algorithme, j'en sais rien.
Je plaisante.
Mais allez regarder ça et puis.
Écoutez ça.
Voilà, ça en
je te reprends.
Let's go.
Moi, Marocco, c'est Cas Van de Paul, comme toutes les deux semaines à peu près.
C'est fou.
Chaîne YouTube d'animation. Et là, il reprend Madagascar, le résumé de Madagascar, qui est à chialer de rire. Et lui, il a beaucoup de problèmes avec de démonétisation parce que ses cartoons sont très trash et sont très souvent démonétisés, ce genre de choses. Mais grâce, c'est ça que j'aime beaucoup avec Internet, grâce au financement participatif et tout ça, finalement, il arrive à être totalement indépendant. Et il dit, bon, ben voilà, ça s'est fait démonétiser, mais aussi grâce à vous, on peut continuer à en faire. Et donc, ça, je trouve ça génial. Bon, c'est marrant, toutes les deux semaines, mais bon.
Ouais.
Il fait des lives sur Twitch aussi. Hein.
C'est Cas Van de Paul?
Ouais.
Ok, et c'est vraiment, en tout cas, un artiste que je trouve incroyable. Tout est drôle. Bon, bref, voilà.
Mais dans le même style, vous avez montré, je sais plus comment il s'appelle, il est assez connu sur YouTube. Ils font des speedruns de jeux vidéo, notamment Zelda. Il fait du
Terminal
dessin.
Montage!
Incroyable. Oh là là. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, et j'en ai pleuré de rire, vraiment. Ouais. C'est insane.
100% Internet.
Ouais. Ah ouais, mais c'est tout. Il y a tout ce que j'aime. Le même, le curse, l'animation. C'est ouf.
C'est une chaîne que j'adore aussi. Ah. Et souvent, ils font des combats de Pokémon qui n'ont aucun sens, qui sont interminables. C'est trop bien animé, hyper généreux.
C'est trop, trop drôle.
Terminal Montage.
Et puis, il y a le côté speedrun, en plus, qui rend ça encore plus...
Celui de Zelda, Breath of the Wild, m'a scié, parce que j'ai vu les speedruns de Zelda, et de tomber ensuite sur un mec qui anime les moments chelous du truc, c'est à chier de rire. Nous arrivons désormais à la fin de l'émission.
Merci d'être
et,
passé.
C'était un plaisir
de vous
recevoir. Alors oui, on vous retrouve où? Faites votre promo maintenant.
Vas-y, à toi.
moi, je suis essentiellement sur Twitch. Clairement, bon, je fais des petites vidéos par-ci, par-là sur YouTube. Mais,
t'as aussi une chaîne YouTube, d'accord.
Bah, en fait, c'est un peu obligatoire des fois de mettre des rediffs ou des choses comme ça pour les gens aussi.
Obligatoire. C'est comme s'il y avait un contrat, genre.
Non, mais en vrai, t'es un peu présent sur tous les réseaux. Quand tu fais quelque chose, ça fait partie de la com. Mais c'est surtout sur Twitch et c'est quasiment toute la semaine, à part le mercredi et le dimanche en général. Okay. Donc voilà.
Cola ?
Eh ben, moi, je suis présent quasiment tous les jours aussi sur Twitch.
plutôt en fin de soirée, ouais. Enfin en début de soirée, fin d'après-midi, début de soirée. Mm. Ça varie, les jours varient et tout. Sinon, j'ai une chaîne de gaming qui est assez active et ma chaîne YouTube d'animation. Et maintenant, j'ai un compte sur TikTok.
Oh, wow.
Yeah. Qui essaye de sauver un petit peu mon image sur TikTok parce que là ça. J'ai
ou alors tu cherches la merde
direct.
Pourquoi tu veux sauver ton image?
C'est à dire que si tu tapes Colabim sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos qui sont extrêmement cringe
et elles sont cringe, c'est à dire des cringe.
Elles sont très gentilles et faites
c'est des
avec,
fancams,
faites avec
c'est...
le cœur, mais
c'est des gens qui t'adorent trop, tu penses, c'est
donc,
ça
je sais pas si
elles t'adorent, c'est sûr. D'accord,
okay. Moi, c'est adore cette plastique en tout cas, peut-être un peu
forcément quand t'es beau gosse, c'est le prix à payer, je suis désolé. C'est ta faute aussi, hein. Si tu poussais un peu moins à la salle. J'ai fait un screenshot pas plus tard qu'hier pour annoncer l'émission. Je te vois avec tes gros boobies. Je fais putain, mais il force aussi. C'est ta faute.
Quelle horreur.
Je vais cacher derrière cette
bouteille. Je plaisante évidemment.
Bah, merci beaucoup.
Ouais, merci pour les
vidéos.
Merci.
C'était cool. Ouais. Enfin de se voir. Merci ouais. Ava d'être venu.
Et merci puis, Ava, merci Colin.
Merci la régie et merci au Modo.
Ouais,
merci.
Et on se retrouve
toi,
nous,
tout de suite.
La semaine prochaine ouais. Pour la dernière émission de la saison.
Ouais, ouais, ouais.
Merci beaucoup
merci
d'être venu. Au revoir, Zen.
Au revoir.
Salut le chat.
À toutes.
Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.